Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
Tell me, that number you all wear, what's it mean?
Oh, Fahrenheit 451.
Why 451 rather than 813 or 121?
Fahrenheit 451 is the temperature at which book paper catches fire and starts to burn.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le 26 novembre 2017. Bonjour et bienvenue au 51e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et à mes côtés, Marie-Louise Gariepi.
Allô?
Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet 24quarks.com, donc 24quarks.com. Et aussi sur iTunes, RZO Web, Balado Québec, Pod Québec, on est un peu partout. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks, toujours avec un S, @gmail.com. Aujourd'hui, un petit changement de programme, on avait prévu dans notre série de films, de films de science-fiction non anglophones.
C'est drôle parce que c'est de ma faute.
On avait prévu le film argentin Hombre Mirando al Sudeste.
Ah oui.
C'est ça qu'on avait prévu.
On attend parce qu'on veut qu'on ait un invité qui vienne, mais il ne peut pas.
C'est ça. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Puis nous autres, on a été super occupés, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de retard. Puis là,
ça faisait trop longtemps.
C'est long. Il faut qu'on fasse un petit épisode quand même, juste pour le fun. Donc c'est ça. Donc du coup, on s'est dit, en attendant que Pierre-Luc soit disponible, on allait se faire un petit film, juste les deux. Et puis pour ça, on a choisi Fahrenheit 451. De François Truffaut.
Oui, ok. Moi, je pensais que c'était un film français. Dans mon manque de culture profond. Parce que, en fait.
C'est pas vrai.
Non, mais c'est parce que Truffaut. Le pire, c'est que Truffaut, je l'adore. J'ai vu beaucoup de films de Truffaut. Et du coup, je me suis dit. Je l'avais vu comme à Télé-Québec quand j'étais jeune, là. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Fahrenheit 451. Puis à l'époque, évidemment, je l'avais vu en français. Puis dans ma tête, comme c'était François Truffaut, c'était un film en français. Donc, j'étais contente. Je disais, on va faire Fahrenheit 451 dans la série des films non anglophones. Alors là, on l'écoute. Puis là, je me rends compte, mais non, c'est un film qui est tourné au Pinewood Studio. C'est un film britannique. Bon, c'est pas américain. Ça a au moins ça de rafraîchissant, mais il y a quand même beaucoup de films. C'est anglophone pareil, puis il y a quand même beaucoup de films de science-fiction.
Par un réalisateur français. Et d'ailleurs, est-ce que c'est son seul film anglophone?
Oui, c'est son seul film en anglais. Et c'est très comique parce qu'il il parlait même pas anglais. Il parlait pas anglais avec l'équipe et tout. Ça devait être très drôle sur le plateau de tournage.
Voilà, c'est ça.
Ça pour dire que. Ben, alors, on va le faire parce qu'on l'a écouté, puis ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de podcast.
De toute façon, c'était un film qu'on avait dans notre liste qu'on allait faire une fois ou l'autre. Donc,
oui, c'est un film hyper intéressant qui a beaucoup de choses à dire dessus.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, Fahrenheit 451 de François Truffaut de 1966. Mais avant ça. Je voulais vous faire part d'un courriel qu'on a reçu il y a un bout de temps, évidemment, parce que c'était il y a quoi, 3 mois, 4 mois, je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on a fait un épisode, c'est terrible. On a reçu un courriel, d'ailleurs, vous aussi, si vous nous écrivez, et puis vous avez des petits commentaires ou des suggestions, et il est tout à fait possible qu'on fasse comme pour notre auditeur David Rossoni de France, et qu'on vous lise à l'antenne.
Qu'on va vous lire à l'antenne.
Ouais.
Même si vous dites des gros mots, on va juste faire blablabla, bip, bip, bip. Là,
voilà. Surtout dans son cas, quand c'est une suggestion de film que, personnellement, je ne connaissais pas.
Et moi non plus.
Voilà, et qui pourrait être super intéressant à faire dans un prochain épisode.
Oui, dans notre série de films de langue étrangère.
Alors, voici ce que dit David. Fan de longue date de votre émission, j'aimerais vous suggérer pour votre série d'émissions sur le cinéma de science-fiction non anglophone, on aurait pu le faire cette fois, un titre méconnu de la plupart des cinéphiles et fans de science-fiction occidentaux actuels. Vous avez déjà consacré un épisode à Stalker, l'un des rares films de science-fiction produits dans les pays anciennement dits de l'Est, et largement reconnu, mais ce sillon méritait, à mon humble avis, d'être creusé plus avant. À titre d'exemple, pour 2001, Odyssée de l'espace, son film préféré, entre parenthèses, Kubrick a notamment puisé son inspiration dans Le Chemin des Étoiles de 58 ou surtout dans Ikari XB1, je ne sais pas si c'est de cette manière-là qu'on le prononce, mais en tout cas, ou Icarier peut-être, XB1, c'est un film de 1963. C'est ce dernier film que je vous propose pour une prochaine émission. Si vous ne le connaissez pas, vous serez certainement agréablement surpris. C'est l'un des très rares films de science-fiction d'avant la Révolution 2001, entre guillemets, de 1968, encore regardable pour un spectateur d'aujourd'hui. Et je l'ai visionné à nouveau cet été pour sa ressortie au cinéma en 4K lors du Festival d'Astronomie de Florence, en France. Ça devait être sympa comme visionnement, là. En compagnie de plusieurs astrophysiciens, en plus.
Festival d'Astronomie.
Ouais, et qui l'ont apprécié. Vous constaterez qu'Ikari XB1 a influencé non seulement de façon évidente 2001, on sait que Kubrick l'a visionné pendant la préparation de son chef-d'œuvre, mais encore aussi des films très récents comme Sunshine ou Passengers, sans parler de séries TV telles que Star Trek, la série originale. Très cordialement, David. Voilà, donc oui. super courriel.
Mais
c'est vraiment intéressant.
Moi, ça m'intrigue. On promet de le faire, il faut le trouver. Mais
j'étais très, très occupé dernièrement, fait que je n'ai pas eu le temps de vraiment...
Rappelle-moi le nom du titre que
j'ai Ikari, I-K-A-R-I-E, XB1.
K-A-R-I-E.
C'est un film tchécoslovaque.
Oh, il existe en streaming, en tout cas. J'ai dit ça, moi.
en tout cas, merci David pour ce courriel. C'est vraiment une super suggestion, un film que je connaissais absolument pas du tout. C'est pas le seul d'ailleurs. Je ne suis pas un puits de science, de science-fiction.
Hey, on commence à en avoir fait beaucoup, Nick. Bientôt, on va pouvoir commencer à se faire une petite carte expert de films de science-fiction. Sérieux, là?
En tout cas, celui-là...
Après, on est rendu à quoi, notre 50e...
Ah, je vois, c'est quoi, c'est le titre... c'est le titre américain, c'est Ikarus XB1.
Ouais.
Donc, je vois où ça nous mène, cette affaire. Mm. En tout cas, ça sera intéressant à faire une prochaine fois. Et puis sinon, j'avais pas de plug particulière à faire cette fois-ci. Je voulais juste mentionner deux, trois choses que j'ai vues entre temps, là, depuis tout ce temps, qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas entendu. Notamment que j'avais eu la chance d'aller voir au cinéma la version Director's Cut de 135 minutes en nouveau transfert 4K de Close Encounters of the Third Kind de Spielberg, mon film préféré. My all-time favorite, qui a fait une ressortie au cinéma pour, je pense, une semaine ou une dizaine de jours, quelque chose comme ça, il y a quelques mois. Là. Puis ça a été un plaisir hallucinant. Quoi. Je me réjouis qu'on fasse un épisode sur ce film parce que j'y tiens tellement à ce film. Enfin, c'est un film tellement important pour moi. Je suis tombé sur Rotten Tomatoes qui lui donne un score de 100%.
C'est clair.
Et franchement, ça reste un film extraordinaire.
Il va falloir se trouver un invité intéressant aussi pour celui-là. Là, ça serait fun d'être...
Si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ou si vous ne l'avez jamais vu, moi, je le recommande chaudement parce que c'est un film vraiment que j'adore et un film assez extraordinaire.
Moi, j'ai une plug à faire aussi.
Vas-y.
J'étais au festival de web-série de New York pour une web-série que j'ai produite. Qui est en nomination et tout. On n'a pas gagné, mais c'est pas grave. Et puis, un des films comme... Écoute, je l'ai même pas vu encore, même des web-séries dont tout le monde parlait, qui paraît qui est extraordinaire puis qui a gagné des prix. Ça s'appelle Restoration, donc R-E-S-T-O-R-A-T-I-O-N. Mm-hmm. C'est un thriller de science-fiction. Donc, Restoration, tapez ça sur Internet, web-série. C'est vraiment une des web-séries qui fait fureur cette année dans le circuit des festivals de web-séries. Donc, j'ai découvert ça. Moi, je vais l'écouter. C'est juste que vu que je suis revenue, j'ai pas le temps. J'ai tellement occupé. Donc, j'ai écouté Fahrenheit 451, mais pas Restoration. Mais j'avais envie de vous en parler parce que les gens qui m'ont dit que c'était bon, je leur fais confiance. Puis, c'est le fun de découvrir la web-série de partout ailleurs.
Ouais, c'est ça. Moi, j'avais dans la série des films que j'ai eu la chance de voir au cinéma aussi il y a quelques temps, il y a eu Terminator 2 Judgment Day 3D qui est ressorti au cinéma aussi pendant une courte période.
3D,
ouais. Et le transfert 3D était bien fait. Mais ça apporte pas vraiment grand-chose au film, mais par contre ce qui m'a halluciné, c'est comme le film est toujours aussi bon quoi, c'est toujours un excellent film d'action. À part quelques petits effets spéciaux qui commencent à dater un petit peu, tu sais, d'animation, des liquides et tout ça, qui à l'époque était un truc de fou.
Oui, mais
là.
C'était nouveau à l'époque. Là, ouais. C'était le premier qui avait fait ça.
Ça, évidemment, ça commence à vieillir un peu. Mais à part ça, le film, le rythme et tout, le montage, tout le rythme du film, ça marche toujours aussi bien, quoi. Mmh. Toujours aussi bien. Mmh. C'était un plaisir à revoir ce grand écran. Et si par hasard ça passe par chez vous, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Évidemment, il y a eu Blade Runner 2049.
Ouais, moi, je ne l'ai pas vu encore.
Tu ne l'as pas vu encore? Et ça, c'est hallucinant.
Ben, je veux dire, ben, écoute, c'est soit que j'allais le voir en même temps que tout le monde, soit que j'attendais.
T'attendais que le hype passe?
Ouais, ouais. Puis, je ne sais pas. Là, j'ai comme pas. Tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était génial. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas bon. Donc, c'est comme, tu sais, je sais ça peut, je vais attendre de plus y penser, puis à un moment donné, j'irai le voir.
Ouais. Puis on pourra peut-être en faire un épisode d'ailleurs, ça pourrait être intéressant.
Ouais, ouais. Ben, on verra.
On verra à ce moment-là, mais oui,
est-ce que c'est un film
tout le hype est passé.
Il y a tellement de films qu'on a.
Ouais, non, mais c'est un film qui vaut la peine quand même, malgré tout. Tu sais, que ça soit bon ou mauvais, c'est un film qui est vraiment intéressant. Et puis, dernièrement, j'ai terminé la première moitié de la première saison de Star Trek Discovery, qui est la nouvelle série de Star Trek sur CBS.
Mais ça, que j'ai pas vu non plus.
Ah, j'ai quand même pris le temps de la voir.
Puis je suis tellement plus fan de Star Trek que toi, ça a pas de bon sens.
Ouais, ben, j'étais curieux. Puis, écoute, j'ai beaucoup aimé ça. Hein. C'est clair que c'est dans la veine des remakes récents de Star Trek. Mais quand même, là, il y a quelques épisodes dans les 9 qui ont été diffusés. Je crois bien que c'est 8 ou 9, je suis quasiment sûr. Je trouve qu'il y a un début très fort, très action, mais très fort malgré tout. Il y a des personnages super intéressants. Les personnages principaux sont vraiment intéressants. Sonika Martin Green, qui vient de Walking Dead, est excellente. Et il y a quelques épisodes à l'intérieur de la demi-saison, là, notamment l'épisode numéro 7, où là, j'ai vraiment retrouvé l'esprit, tu sais, le mindfuck à la Star Trek, comme tu pouvais le voir dans des vieux épisodes. Là, c'était vraiment, vraiment bon. Donc, j'ai bon espoir. J'espère que ça va continuer. Cette qualité-là va être...
À partir de quel épisode que tu dis que ça...
C'était l'épisode 7. Mais moi, j'ai accroché dès les deux premiers, quoi. Et au début, j'ai eu peur parce que le showrunner de la série est parti après les deux premiers. Ah. Il est toujours crédité comme créateur de la série, si tu veux, pour le reste. Mais je me suis dit, oulala, est-ce que la série va en prendre un coup? Parce que les deux premiers sont vraiment très bons. Et en fait, j'ai pas trouvé que la série en a souffert à date. Je trouve ça bon. Voilà, c'était juste pour dire un petit peu les choses que j'avais vues, puis qui valent peut-être la peine. Et puis voilà.
Ok, bon, alors on se lance.
Alors, ouais, on se lance dans Fahrenheit 451. Tout d'abord avec un petit résumé. Dans une société future totalitaire, où la télévision est une famille et où la lecture est un acte interdit, les pompiers, devenus les représentants de la loi, ont pour mission de brûler tous les livres dont la possession est illégale. L'un d'eux, Guy Montag, promis à un poste supérieur, se met à remettre en cause ses actes.
Tell me, why do you burn books?
What? Well, it's a job like any other. Good work, with lots of variety. Books are just so much rubbish. They have no interest.
Then why do some people still read them, although it's so dangerous?
Precisely because it is forbidden.
Why is it forbidden?
Because it made people unhappy.
Do you really believe that?
Oh, yes. Books disturb people. They make them antisocial.
Alors, comment as-tu vu ce film pour la première fois, Marie-Louise?
Ça, c'est vraiment un film que je me rappelle avoir vu enfant à la télévision. Donc, moi, je suis née en 73. Donc, le film, il datait déjà. Tu sais, ça date de 66. Donc, j'imagine c'est le genre de film qui jouait souvent, probablement à Télé-Québec, là, j'imagine c'est le genre de Télé-Québec. Ou peut-être Radio-Canada, mais il me semble que Truffaut, Télé-Québec, elles ensemble. Probablement quand j'avais 7-8 ans. Donc, je devrais dire dans le début des années 80, peut-être. Et je l'ai vu, mais alors, tu sais, j'ai souvenir enfant de le voir quand j'habite en Abitibi. Et je suis une fan de Truffaut, donc j'ai dû le revoir plus tard. Mais en le réécoutant aujourd'hui, là, j'étais là, il y a plein de scènes que j'avais aucun souvenir. Donc, j'avais vu la fin. Donc, c'est vraiment un feeling de l'avoir attrapé à la TV à quelques reprises, puis d'avoir vu des bouts.
Des morceaux, ouais, jamais
vraiment vu au complet. Donc, peut-être pour répondre à ta question, c'est peut-être la première fois que je le vois au complet aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est drôle parce que Julie Christie, c'est une actrice que je trouve magnifique, que j'ai toujours bien aimée, là, son expression, son visage. Donc, j'avais l'impression de l'avoir vue. Mais non, peut-être pas. Mais voilà, donc ça c'est... Et toi?
Ben, c'est un peu la même chose dans le sens où je suis quasi certain de l'avoir déjà vu. J'ai aucun souvenir quand. Ben, je devais être très jeune. Moi, je suis de 68, donc voilà. il devait être aussi diffusé de temps en temps à la télé, mais j'avais peu de souvenirs de ce film. Je me rappelais de l'histoire, enfin du contenu peut-être, parce que il me semble que j'avais peut-être lu le livre ou en tout cas un résumé. Enfin bref, en tout cas, j'étais vraiment familier avec l'histoire. Donc,
qui n'est pas très complexe hein, quand tu le
non,
dis.
Du
quand
tout.
Tu lis la description dans le télé horaire là où ouais. C'est le truc, je pense que tu comprends tout de suite le truc.
Ouais, puis c'est assez. pardon, c'est une histoire assez classique finalement. Tu sais,
oui. Oui.
Du gars qui fait partie de quelque chose puis qui tout à coup commence à remettre en question ses croyances ou ses actes, etc. Puis finalement se détache de ou
mais
passe,
il va rejoindre
passe
le...
de l'autre côté, ouais,
passe
il passe dans l'autre camp.
Oui, c'est, ça.
C'est assez classique comme histoire.
Oui, mais c'est, un... ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire.
Moi aussi, j'aime bien ça. Ouais.
Mais c'est une forme classique, effectivement. Mm-hmm.
Puis, donc du coup, et en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir.
Moi aussi.
Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film de Truffaut. Parce que...
Puis c'est un maître, Truffaut, là.
En plus...
Non, mais tu vois plein de détails, t'es comme... Ah ben oui, la... ouais, c'est face au cinéma, lui,
ouais,
hein.
Je pense que... en plus, je suis pas... Là, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je sais pas si c'est son seul film de science-fiction ou un
oui,
de ses rares.
C'est son seul film de science-fiction.
C'est intéressant.
Sa seule autre incursion dans la science-fiction, c'était bien sûr Rencontre
du troisième type. Le lien est fait, voilà. Je devais en parler, tu vois. Et
dans
en
lequel
fait,
il a joué, voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Truffaut jouait dans Rencontre du troisième.
Ouais, il joue dedans, ouais, absolument, ouais. Parce que Spielberg était un grand fan.
Ouais, ce qui n'est pas étonnant.
De Truffaut, ouais, ce qui n'est pas étonnant du tout.
Il y a comme quand tu, ben c'est drôle parce qu'en regardant ce film-là, je voyais des, tu sais, comme la scène du début au téléphone où est-ce que il fait des jump cuts.
Des jump cuts dans le cadre.
Spielberg a fait ça plein de fois. Tu vois ça, tu penses à Spielberg, là. Tu sais, c'est un des modes d'opération qu'il utilise comme. Puis ça marche, là. C'est magnifique, là, ce moment-là. Ben, c'est pour montrer une intensité soudaine, puis comme.
Ouais. Non, vraiment. En fait, j'avais oublié comme j'aime Truffaut. Je pense que de tous les réalisateurs de la Nouvelle Vague, c'est celui que j'aime le plus.
Non, moi aussi.
J'ai aimé le mouvement constant qu'il y a dans ces images. C'est-à-dire que la caméra est rarement statique, ou alors elle est statique pour une raison très précise. Puis et j'adore le fait qu'il est toujours en train de rentrer. Tu sais, il utilise les volumes de ses décors constamment. Tu sais, il se promène à l'intérieur des décors.
Oui.
Il est toujours assez proche de ses comédiens. Puis il avance avec eux, tu sais, il cherche avec eux, et puis la caméra
bouge. À une époque où c'était pas facile.
Oui, parce que c'était des gros dolly, des grosses caméras,
c'était son premier film en couleur aussi.
Ouais, en plus.
Ouais. Donc je sais pas s'il était en 35 mm, mais probablement.
Un gros défi. Puis franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir, bien que c'est un autre rythme, c'est un autre jeu. Le jeu m'a un petit peu agacé par moments, surtout le jeu de l'acteur principal.
C'est un problème que Truffaut a vécu, le jeu.
Ouais, ouais.
On peut en reparler tantôt, là.
Ouais.
Mais oui, c'est agréable aussi de voir des vieux films de science-fiction qui étaient... Puis c'est un peu... Je trouve que Fahrenheit 451, il y a quelque chose de très... Tu sais, c'est le genre de science-fiction qu'on aime, là, qui n'est pas basé sur l'action, hein, qui est basé sur... Bon, on aime... On vient de parler Terminator, on aime ça, on a aimé Alien, Aliens, plutôt, j'aurais dire, là, celui, au niveau de l'action. Tu sais, Gravity, j'ai aimé ça. Il y a plein de films de science-fiction qui sont au niveau de l'action qu'on aime, mais ça devient les clichés de films de science-fiction qui se font aujourd'hui par les gros studios hollywoodiens, tu sais.
Ouais.
Tandis que ça, c'est vraiment une histoire qui est basée sur comment les gens sont dans une autre société, tu sais, c'est comme qui est nous, mais futur, si un des éléments va vers ça. Donc, ça, moi, ça me plaît beaucoup, là. Puis c'est un petit peu absurde, un petit peu naïf par bout.
Ouais.
Tu sais, comme. Mais c'est intéressant parce que tu te dis. Tu sais, par bout, j'ai pensé à Brazil, carrément. Même si c'était pas de l'humour, là. Mais tu sais, la scène où les docteurs arrivent, puis ils vont la vider de son sang.
Ben oui.
C'est Brazil, là.
Oui,
c'est la scène où est-ce que, tu sais, les deux. Ils arrivent avec. Puis ils vont réparer la machine, là, puis ils la réparent pas. Là.
Ouais.
C'est pas pareil, mais il y a quelque chose d'identique là, dans leur façon d'être, de parler. Les deux personnages sont couverts de vinyle
blanc. Ouais.
C'est super inquiétant, kitsch. Ils ont l'air de boucher, pas de docteur. D'ailleurs, ils le disent, ils sont pas des docteurs. Donc, ouais. Donc, ça, c'est un des moments. Donc, ça m'a fait penser, c'est ça, à des films un peu absurdes. Ça, j'adore ce genre-là, tu sais.
Ah ouais, non, vraiment. J'ai aimé ça, quoi. J'étais rivé à l'écran, là, je ne lâchais plus.
Non, ça n'a pas
duré. Ce n'est pas forcément le cas pour les films plus anciens, tu sais, parce que maintenant, on est, comme tu le dis, on est habitué à un autre rythme, etc. À d'autres effets spéciaux, tout ça, mais je trouve que ça marche, ça se tient bien et tout. C'est vraiment, ouais, le seul problème que j'ai eu, c'était au niveau du jeu. Et alors, il paraît d'ailleurs que, je lisais dans le trivia que Truffaut lui-même disait comme quoi, ben, donc déjà, comme tu l'as dit avant, il parlait pas un mot d'anglais. Fait que non. Je pense qu'il y avait des traducteurs sur le plateau. Donc ça crée tout de suite une distance avec les comédiens.
Mais je pense, le comédien, il connaissait pourtant, c'était le comédien de Julie Jim.
Ouais.
C'était celui qui faisait Jules.
Ouais.
Puis il était. Jules ou Jim? Il faisait. Jules. Il faisait Jules. Ben donc.
Je sais plus en fait. Non, je pense que c'est Jules. J'en sais rien.
C'est parce que j'ai Jules, parce que je me suis toujours dit qu'il devait s'appeler Jim, mais c'est Jules. Jules, j'aime que ça. Hey, j'ai vu ça tellement de fois, ce film-là. Ça, c'est magnifique. Mais donc, tu aurais cru penser qu'ils se connaissaient bien puis qu'ils s'entendaient bien. Mais non, ils se sont chicanés, hein, parce que le comédien principal, on va dire son nom, Colin, il faut le trouver. Hein. On est allé en Internet, voyons. Non. Oscar Werner. Un Autrichien. Ouais. Donc, Oscar Werner, lui, il ne voulait pas du tout jouer comme Truffaut voulait qu'il joue, là. Ils n'avaient pas du tout la même vision du personnage, là.
Ouais. Du coup, je ne sais pas, le résultat qui est à l'écran, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas qui c'est, finalement. Est-ce que c'est...
C'est plus Werner.
C'est plus Werner, ouais.
Oui, non, j'ai lu quelque part, là, mais je pense que c'était dans les trivia, mais peut-être un peu plus loin. Truffaut voulait que Werner soit plus... c'est comme, par exemple, quand il découvrait les livres, qu'il soit plus comme, c'est quoi cet objet-là, qu'il touche, qu'il renifle, tu sais. Parce que Werner voulait jouer de façon hautaine, parce que dans la science-fiction, les gens sont robotiques, puis il s'était mis en tête que les gens étaient robotiques dans la science-fiction, ce qui est complètement ridicule. Truffaut avait raison. Puis il voulait qu'il soit plus instinctif, plus... donc, il y a eu un clash. Donc, c'est vrai que le personnage de Werner est un peu hautain.
Excuse-moi, Fille, ce que tu as à dire.
Ouais, non, mais c'est ça, le personnage de Werner, donc le personnage de Guy Montag, nous apparaît comme étant quelqu'un de... Il y a toujours une espèce d'arrogance, tu sais, versus quelque chose d'un petit peu plus humain, là. Tu sais, il est froid, là. Tu sais, il fait pas assez.
Pour la froideur, c'est ce que j'allais dire. En fait, la froideur, je peux la comprendre dans le sens où, c'est le fait qu'ils sont lobotomisés par la télé, là. Tu sais, à force de regarder des niaiseries à la télé, d'être complètement abrutis, ça les démunit finalement de toutes leurs émotions, tu sais.
Ils sont zombies, là.
Ils sont complètement zombifiés, donc ça expliquerait quelque part cette espèce de froideur qu'ils ont, tu sais, ils se parlent sans aucune émotion et tout.
Oh, tout à fait, mais à un moment donné, ça aurait été le fun de le voir.
Tout à coup. Ouais, un petit peu comme la femme, quand sa femme est avec des amis, puis lui, il arrive, puis il commence à leur lire un extrait de livre, et puis il y en a une qui se met à pleurer, ça lui crée quelque chose, quoi. Mm-hmm. C'est vrai que lui, il reste très froid, finalement. Il lit son truc, mais platement, quoi. Mm-hmm.
Ouais, c'est ça,
Exprimer quelque chose, c'est plus d'émotion, ça aurait été quelque chose de plus riche, ouais.
Puis bon, à la base, c'est la vision de Truffaut. Un acteur, ça doit quand même écouter un réalisateur, surtout quand c'est Truffaut.
Ouais.
Non?
C'est fou parce que Oscar Werner, je sais pas, il a peut-être une immense carrière en Autriche, mais c'est pas quelqu'un qui... Je sais pas, est-ce qu'il avait un statut qui lui permettait de se comporter comme une diva?
Ben, à part Julie Jim, Fahrenheit 451... Oh, ça, c'est connu, ça. The Spy Who Came In...
Ah, The Spy Who Came From the Cold, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, ouais.
Came In From the Cold. Bon, il joue là-dedans... D'après.
Ouais, mais je veux dire, il n'a pas 150 films qui sont tous des grands classiques à son actif. Enfin, bref.
Ah ben, il joue dans Columbo, hein.
Ah ben, s'il a joué dans Columbo. Alors, s'il a joué dans Columbo, alors là.
En 75. Il était en Voyage of the Dame. Mm-hmm. Qui. Non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais Village.
Oh, Village of the Damned. Non, c'est Voyage of the Damned.
Voyage of the Damned, c'est autre chose. Non, c'est un truc que...
Enfin bref, donc dommage parce que le film en aurait vraiment bénéficié, quoi. Ça aurait été encore meilleur.
Il a déjà joué Mozart, donc peut-être que ça y a monté à la tête.
Peut-être.
Il était Mozart dans un film qui s'appelait Mozart.
mais c'est ça, ouais. C'est juste le jeu, je pense.
Le jeu d'Oscar Werner, mais qu'est-ce que tu as pensé du jeu de Julie Christie?
Alors, j'ai trouvé intéressant le fait que ça soit elle qui joue deux personnages opposés, c'est-à-dire d'un côté Clarice qui est
la jeune femme
qui comprend pas pourquoi les livres sont illégaux, qui elle est verse dans la littérature et tout. Et puis, en même temps, elle joue la femme de Montag, qui est complètement l'opposé, qui oui. est scotchée à sa télé toute la journée, qui est complètement zombifiée.
Oui, 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 j'ai trouvé ça intéressant aussi comme choix, mais je suis pas sûre que c'était un choix de Truffaut. C'était le producteur qui a eu cette idée.
Oui, ça a l'air, c'est le producteur qui a eu cette idée, mais Truffaut l'a soutenu en fait. Il trouvait ça vraiment intéressant, puis il est parti dans, dans cette chose-là.
C'est comme tu dis, c'est deux personnages qui sont à l'opposé, puis ça, c'est l'idée qu'en fait, on va pas donner un corps spécifique à un rôle. Tu sais, ça va être, ça pourrait être n'importe qui, quoi. T'sais, ça pourrait être n'importe qui. C'est n'importe qui pourrait être conformiste, n'importe qui pourrait être... Pascal, elle n'est pas révoltée, en fait, Clarisse. Clarisse, elle est naturellement différente. Hein?
Ouais.
C'est ça. Donc, c'était de les... Moi, je trouvais
de
que...
De mettre en opposition.
Oui, c'est ça. Je trouvais que d'un point de vue humain, c'était intéressant parce que s'ils ont légèrement différentes, ben là, tu associes une différence. Mais là, l'idée, c'est que non, justement, elles ne sont pas différentes. Ce sont deux femmes qui vivent dans la même société. Et puis, il y en a une qui s'adonne à rien comprendre. T'sais, qui est complètement brainwashé.
Mm-hmm.
Puis t'en as une autre qui, elle, verse dans... Elle est différente. Elle peut pas... elle comprend pas pourquoi elle a perdu son poste à l'école. Elle est juste naturellement différente. Elle a pas l'antenne de TV, puis elle est... Voilà. Non, ça m'a plu. C'est un choix intéressant.
Ouais, non, vraiment un choix intéressant. Puis j'ai aimé aussi, en fait, le fait que le film est toujours d'actualité, finalement. Je trouve qu'il est très... tu sais, l'espèce de brainwashing des écrans.
Oui.
Enfin, tout ce côté-là, tu sais.
Oui, oui.
Tout ce côté où on abandonne la lecture. Bon, évidemment, c'est pas aussi extrême que ça, mais...
Ou est-ce que ce qui est plus intéressant, ça va être... Parce qu'en fait, toute la question est le rapport avec un livre. Parce que là, tu sais, ils ont la télévision, tu sais.
Ouais.
Donc, mais ils sont... La télévision est un médium qui ne t'amènerait pas à réfléchir, contrairement au
non,
livre.
Non, au contraire, ils cherchent à t'abrutir.
Oui, ils sont
mieux
dans
te
un
contrôler.
Vide. Ils sont dans un vide d'idées. Tu les vois qui sont dans le métro, puis les gens, ils se touchent, tu sais.
Ouais.
Puis, tu sais, tu sens qu'ils sont... Ils ont l'air d'idiots, en fait.
Ouais, ouais, c'est des petits détails. Ouais, au départ, j'étais là,
qu'est-ce que
ça veut nous dire quelque chose? Et tout à coup, je me suis rendu compte que c'était ça, finalement. Ils n'avaient tellement plus rien.
Ouais. Donc, c'est ça, ils sont comme, c'est comme s'ils sont ramenés à l'état d'enfant, à l'état de... Ils ne peuvent plus avoir de pensée, donc c'est ça, ils sont tactiles, ils sont... Moi, je l'ai vraiment vu comme ça, ils s'ennuient, donc ils se touchent, ils sont un peu abrutis. Ouais, peut-être que c'est dans le... Faudrait réécouter Idiosyncrasie aussi pour...
C'est quoi? Idiocracy, ça? Ça, voilà, un film de science-fiction très drôle qu'on pourrait faire.
Mais c'est ça c'était... Puis,
et très actuel.
Est-ce que cette actualité, ce côté-là, parce que, je veux dire, je me posais la question, parce que là, c'est une société où est-ce que... C'est vraiment une société totalitaire, puis aujourd'hui, on ne vit pas dans une société totalitaire. Je veux dire, les tabous puis les interdits sont très minimes, puis c'est juste dans des cas où est-ce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent, là, tu sais, tuer, par exemple, tu sais, ça, c'est interdit, c'est un interdit, bon, les agressions sexuelles, c'est des interdits, on l'a vu récemment, tu sais, donc il y a des petites chasses aux sorcières qui se font encore à ce niveau-là, mais...
Oui, mais je pensais pas à ça, moi, c'était vraiment abrutissant des écrans,
Oui, ok, je comprends ce que tu dis. Mais là-dedans, justement...
Ah oui, et puis le fait que, tu sais, la télé devient une famille, que les spectateurs ne sont plus les spectateurs, c'est les cousins. Mm. Que, tu sais, quand ses amis s'en vont à la fin de... Enfin, le fait que le mari de Linda, donc Montag, a lu un extrait de livre à ses amis, puis elles sont parties en pleurs et tout ça... Elle, son souci, c'était qu'elle allait plus être populaire.
Oui.
Enfin, tu sais, il y a des petites choses comme ça.
Mais c'est quelque chose de très... Ça, c'est un peu classique, cliché, là. C'est l'homme qui se découvre quelque chose de plus noble, puis son épouse, elle ne le suit pas, elle reste dans la société, elle l'abandonne, elle ne le comprend pas, elle comprend pas sa quête, sa recherche. Puis c'était typiquement un homme, puis typiquement une femme qui est comme...
Bon, ça aussi, oui, la représentation homme-femme de l'époque.
Oui, ouais, mais je veux dire, mais encore aujourd'hui, ça existe.
Ouais.
Fais-moi penser à un film dans lequel ça serait une femme qui se réveillerait, puis le gars qui serait comme, non, 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 on peut pas choquer nos amis, la famille. C'est typiquement associé à la femme faire, non, 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 là, non, 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 tu vas pas, non, tu sais, genre, tu vas pas faire ça, tu vas choquer la famille, le statu quo, la société, tu sais. Donc, mais c'était c'était ça son rôle. Puis bon, ben c'est une autre femme aussi qui l'amène ailleurs, mais ça aussi, c'est un autre cliché féminin d'être le personnage qui va qui va libérer l'homme de son... Bon, voilà, j'ai fini pour l'analyse féministe.
Non, mais c'est bien, c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement...
Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est comme les personnages féminins sont... Tu sais, je veux dire, c'est pas une femme qui a une quête là-dedans, là. Tu sais, c'est un homme qui va comme être dans sa quête. C'est lui, le protagoniste qu'on suit, c'est un homme. Donc, c'est un protagoniste. Ouais. C'est sûr que en tant que femme, comme tout le monde, je vais m'identifier au protagoniste. Puis aujourd'hui, ben ça change. Là. Il y a quelques films qui ont des protagonistes féminins, mais ça reste en grande majorité des protagonistes masculins qu'on suit. Et en plus, moi, j'écris une bande dessinée en ce moment, puis c'est un protagoniste masculin. Puis je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je devrais le changer en mettre une femme? Mais bon, il y a une raison pourquoi je fais ça. Mais voilà. Mais je voulais en revenir aussi à la société totalitaire, parce que c'est ça, je me disais, aujourd'hui, on est dans une société où est-ce que... Donc, tu sais, on n'est pas allé vers cette société totalitaire, en tout cas pas dans un pays comme le Canada, mettons. Donc, oui, il y a des interdits, oui, il y a ça, mais il y a beaucoup de liberté d'expression, il y a beaucoup de liberté de conscience, d'être différent, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de variété dans l'expression culturelle, tandis que là-dedans, tout le monde est ramené, tout le monde doit être pareil. T'sais, à un moment donné, ils le disent là, carrément, là. Pourquoi lire? T'sais, on doit tous être pareil. Il faut être pareil. Là, t'sais, comme ça va te donner des idées. Là. Tu lis Aristote, c'est ça, tu lis Aristote puis tu te penses meilleur. Non. Tu dois pas te penser meilleur. Tu dois être aussi, il le dit pas, mais aussi con que tout le monde. T'sais. Tout le monde doit être égal. T'sais. Puis la société totalitaire, elle a ça d'effrayant où est-ce que les gens vont faire à semblant, ils vont comme... Ils vont se taire, ils vont se cacher de qui ils sont vraiment, tu sais, pour faire rentrer dans le personnage que la société leur impose. Puis c'est tout le monde qui vit ça. Donc tout le monde veut lire, tout le monde a envie de lire un livre qui lui parle, mais tout le monde ne lit pas parce que c'est ce que la société a décidé, tu sais. Donc contrairement à une société comme la nôtre où est-ce que les personnes qui sont victimes de persécution, ben ils le méritent selon nous comme un collectif parce que c'est des méchants là. Tu sais, les gens qu'on met en prison, ben c'est parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, pas parce qu'ils ont eu une pensée, pas parce qu'ils ont lu un livre, pas parce qu'ils ont été différents, pas parce qu'ils se sont exprimés sur leur différence. Donc, je trouve que c'est quand même important de le dire qu'à l'époque il y avait beaucoup cette obsession là, mais on était 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale là. Il y avait aussi Staline qui était, si je ne me trompe pas, en 66. C'est quoi, en 55 qui est mort, Staline?
Oh, je ne sais plus, mais peut-être quelque chose comme ça. Mais, ouais, mais là, typiquement, ça faisait un lien direct avec, certains épisodes du régime de Hitler ou Staline ou qui faisait brûler certains grands auteurs.
Ben oui, les
philosophes et les choses comme ça, non?
Ce qui comptait comme décadent, là, j'imagine. Mais Staline aussi, en Russie, tu avais beaucoup de censure.
D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment, tu sais, quand il fait son... quand il fait son discours sur pourquoi tout doit y passer, etc., etc., tu sais, il brandit bien en évidence le Mein Kampf.
Oui.
De Hitler.
Oui.
Donc, c'est assez édifiant. C'est drôle aussi, d'ailleurs, que tu vois dans le feu, à un moment, les cahiers du cinéma.
Oui.
Pour qui Truffaut écrivait à l'époque.
C'est un petit clin d'œil.
Ouais, un petit clin d'œil. Il paraît même qu'il y a une copie de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, parce que donc,
oui.
Il s'agit d'un roman
Ray Bradbury. Il mentionne aussi... le truc martien.
Oh, les chroniques martiennes.
Il y a quelqu'un de Bradbury. Là,
ouais.
Il le nomme dans le film. Là.
Je ne me rappelle pas avoir lu le livre, mais peut-être que je l'ai lu en classe. Je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Mais je sais qu'il y a quelques petites différences. Je sais que le livre finit mal alors que le film finit quand même sur une note positive.
Ben, il finit sur une note un peu philosophique, je trouve. Parce qu'en fait, c'est l'idée que... Ils peuvent pas, tu sais,
on peut pas t'enlever ta pensée, ouais.
Ouais, quand t'es dans la pensée, c'est ça.
Donc ta meilleure arme contre le régime finalement, c'est de
résister.
Tout apprendre par cœur,
apprendre les livres par cœur, puis un jour on va les réécrire, tu sais, puis on va transmettre les livres de génération en génération, tu sais. Donc ça c'est une image intéressante de.
Ouais, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la manière dont ils se présentent chacun par le nom de l'auteur du livre qu'ils ont appris par cœur. Tu sais.
Oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent.
Cool.
Oui, c'est beau ce moment-là. Ouais. C'est là que c'est quand même un peu utopique. Hein. C'est pas réaliste, cette scène-là à la fin.
Mais c'est une super belle scène, je trouve, où ils se présentent chacun par le nom de leur auteur. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé la musique aussi, le choix d'avoir pris Herman pour faire la musique.
Tu sais. C'est Herman qui fait la musique.
Ouais, ouais. Oh, clairement, tu le reconnais tellement là.
Oui,
tu connais un peu la filmographie d'Hitchcock et, et tout ce qu'a signé Herman, tu reconnais
au début,
instantanément.
C'est ça, au
Herman.
Début, j'étais comme, mon Dieu, du Stravinsky, Tchaïkovski, pardon. Mais tu sais, c'est comme un mélange entre les deux. Puis oui, c'est Herman, c'est tout à fait ça. Tu sais, c'est une espèce d'orchestration qui crée un malaise, là, tu sais.
Ouais, mais en même temps, qui donne une espèce de vie. Ça amène quelque chose au film de vivant. Je trouve que ça match très bien les images en mouvement de Truffaut. Là,
puis la scène du début aussi, en parlant d'ambiance sonore, ce qui était magnifique, c'est qu'il ne parle pas pendant les 7 premières minutes. La première scène, c'est l'action. On voit ce qui se passe. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est très cinématographique. Ça faisait cinéma muet. Ça me plaisait. Là, j'étais comme,
Ah, oh, puis le générique parlé.
Le générique parlé au début. Parce que, ben oui, ça, c'est pour refléter l'histoire du film.
Exactement.
Dans le film, il n'y a pas de... Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas d'écrit.
Il n'y a pas d'écrit, hein.
À l'école, t'entends les enfants qui récitent des chiffres aussi.
Oui.
Intéressant. Il y a un tableau à un moment donné, puis c'est des chiffres, puis des dessins. Il lit un journal.
Comme une bande dessinée.
C'est comme absurde. À un moment donné, ça devient comme... Mais non, ça se peut pas, une société comme ça. Mais tout est symbolique, là. C'est comme il crée une sorte de proposition comment le monde va fonctionner, puis il va jusqu'au bout, là, puis ça marche, quoi.
Ouais, c'est ça. J'aurais presque envie de relire le livre pour aller peut-être plus profond dans cette idée-là, tu sais. Voir jusqu'où il va là-dedans, finalement, tu sais, parce que je pense qu'il l'explore un peu plus en détail dans le livre.
Oui, j'avais envie de relire le livre, mais on a fait le... En fait, c'est ça, on a décidé de faire le podcast assez vite cette semaine. Puis ça serait un truc intéressant. Ça aurait été intéressant de lire le livre, là.
T'as pris tout plein de petites notes?
Oui, j'ai pris plein de notes, mais je suis en train de regarder si j'oublie des choses. Mais tu vois, j'ai déjà parlé des choses les plus importantes. mais je trouve très beau aussi les montages, la manière de monter ce film-là. Je sais pas c'est qui le monteur. On nomme jamais les monteurs. L'air de rien, le monteur.
Si ça se trouve, je sais pas si c'est un monteur qui a été imposé aussi. J'ai pas assez de.
Tu penses ça aurait pu être un monteur imposé en tout cas.
Ou alors c'est le monteur de Truffaut, tu sais, qui travaille le plus souvent, ce qui serait très possible. J'ai pas eu la curiosité d'aller regarder jusque-là. Ce qui m'a plu aussi, c'est le côté où c'est le fait que ça soit les pompiers qui soient les méchants finalement, qui soient la figure d'autorité, puis qui finissent par, qui sont les méchants. Alors que dans la vraie vie là, pour moi, les pompiers c'est les vrais héros, tous les premiers répondants là.
Oui, mais c'est
tous ces gens là pour moi c'est des héros de la vie de tous les jours, tu sais. Et là tout à coup de les voir à l'opposé, je trouve super intéressant. Voilà.
Mais c'est des firemen, tu sais. À un moment donné, c'est drôle, ils ont oublié. Ça, c'est un autre truc, c'est toute la notion de l'oubli par rapport...
Le fait qu'ils éteignent plus de feu, mais ils mettent le feu, c'est ça que tu veux dire?
Exactement, c'est
la
ça.
La petite conversation qu'ils ont au début là, entre Clarice et Montag.
Alors, ça a l'air qu'il n'y a pas d'éditeur sur ce film-là. Oui,
comment ça, il n'y a pas de monteur?
Le film
n'a pas été monté, le film est...
T'as peu, j'ai comme film editing, voilà. Tom Noble, qui nous a donné Thelma et Louise. Ouais, il a fait des grands films. Il a fait Witness. C'était son premier film.
Fahrenheit,
4-5 ans. Ouais. Ah ben, il est chanceux. Il a appris par la bonne école.
Wow.
Ouais, puis après ça, il a fait Inside Out. C'est un petit film chouette. Ouais, Boardwalk, Witness, Mosquito Coast, Poltergeist, Winter. Ah ben, voilà.
Quoi? Poltergeist?
Passengers.
Ah voilà, Passengers que j'ai vu aussi... récemment.
Ben, je sais pas si c'est le bon Passenger parce que. Ouais.
C'est pas celui-là.
Non, c'est un truc qui est une...
Donc, ouais, ben Passengers, le film de science-fiction là, c'est c'est pas bon.
Donc oui, c'est ça. Revenons.
Prémisse super intéressante et ça part en couille très vite.
Ah oui. Oh,
parce que ouais, il y a toute une histoire d'éthique dans ce film là qui passe complètement à l'as. Enfin. Alors que c'était le propos du... Parce que je crois que c'est tiré d'un livre et il me semble que c'était le propos du livre. Enfin, bref, si t'as l'occasion de le voir, pourquoi pas, mais en tout cas...
Mais ça, en parlant du montage, c'est qu'il y a plein de petits moments où est-ce que, tu sais, comme par exemple quand il lit le livre de David Copperfield, la première fois qu'il lit, tu sais, c'est comme, il le lit, mais tu sais, il se rapproche constamment.
Ouais.
du livre jusque dans les lettres, mais la façon, ils vont dans différentes... Tu sais, il a utilisé toutes les shots, tu sais. Je sais pas si c'est passé son premier film, il s'est dit, mais si Truffaut a filmé tout ça, il faut que je m'en serve de tout. Mais pour moi, Truffaut devait être à côté de lui, devait dire, OK, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ouais. C'est sûr. Puis c'était vraiment... Ça créait comme une sorte de... Ou la scène de sexe, quand le lendemain, elle va coucher avec lui, il y a comme une sorte de... Tu sais, on la voit, il y a un jump cut sur leur visage, c'est vraiment bizarre, malaisant. Il y a comme, tu sais... C'est tout dans le montage, ça. C'est vraiment ouais. Le fun, là, tu sais. Puis c'est... Il y a à un moment donné, ils se permettent des choses. Il y a comme une sorte de... Le noir rentre dans l'écran, là, tu sais.
Oui.
Puis là, tu comprends qu'à ce moment-là... Puis là, il y a la musique, là, qui... Ouais, ouais. Puis là, tu comprends qu'il est en train de laisser passer un gars qui a des livres, ouais. Tu sais. C'est là que tu comprends qu'il a changé de camp, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ce procédé-là, pourquoi? Tu sais, c'était pas... C'était peut-être juste la mesure aurait suffi, mais il voulait vraiment, tu sais, « look at that ». Tu sais, c'est comme, regarde, toi, spectateur, ce que je suis en train de faire, là. Regarde ce qui se passe, tu sais. Puis ça me plaît, moi, ça me
ouais,
parle.
Ouais, c'est bon,
t'sais.
J'aime beaucoup aussi, ouais. Mm. C'est vraiment très bien.
Tu sais, je trouve des fois que les cinéastes n'osent pas assez, là, avec le montage.
Mais je pense que Truffaut fait partie de cette génération de...
Ben, il connaissait son cinéma.
Ouais, et puis non, il fait partie de cette génération de gens qui ont osé faire des choses, c'est qui ont changé la manière dont les films se faisaient, finalement, tu sais. Et puis ben là, t'as un exemple flagrant là, de ces petits détails, mais qui sont super bien placés, qui sont très précis.
Oui, c'est puis pas de bord en bord, là.
C'est juste... Et en même temps, c'est pas, ça choque pas, ça crée, hein, ça te déstabilise, mais ça choque pas. Tu t'es pas en train de te dire, wow, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça n'a rien à voir avec le reste du film. Il y a une logique dans ce qu'il fait, tu sais. Et j'ai bien aimé cette manière-là de marquer certaines actions, ouais. C'est vraiment bien.
Oui, puis il y a aussi tout les petits détails aussi de science-fiction, tu sais, la pensée, comme par exemple, quand ils se serrent la main, ben tu vois qu'ils se prennent la main ils dépassent jusqu'au coude, tu sais. C'est comme ils ne serrent pas la main comme la main, ils se serrent le... Puis ça, c'est un petit détail, c'est juste de se dire, moi, je suis dans une autre société, comment des trucs, puis tu y crois, parce que même si c'est dans les années 60, tu sais, il y a l'espèce de monorail, mais tous, ils ont filmé, évidemment, des architectures modernes pour l'époque, donc tu sais, tu le sens, là, tu te dis, OK, je suis dans une science-fiction, tu te décroches pas. Parce que il y a un moment que j'ai trouvé un peu ridicule, c'est quand il rentrait dans le bureau. Puis évidemment, il fallait qu'il fouille dans tous les papiers. Puis t'es comme, dude!
Ouais, ouais, ouais.
Vous aviez pas des ordinateurs à l'époque déjà? Tu sais, mais l'incapacité de concevoir qu'il y aurait eu une autre technologie là, ouais, pour ouais, les données, là, tu fouilles dans des papiers. Mais quand même, à part ce petit détail-là, je trouvais ça bien, là, tu sais. Quoi d'autre? Ben aussi, les évidemment, la société, tu sais, quand tu rentres dans l'école, tout est symétrique, tu vois les petits uniformes, on voit les enfants qui apparaissent comme des fantômes, là, ouais, tu sais, ouais, ils sont ouais. Terrifiés, ils sont comme, tu sais, ça donne quelque chose de très malaisant, là, tu te sens pas bien, là, par rapport à cette société-là, là, comme, il y a beaucoup de moments qu'on a beaucoup d'empathie pour les gens qui sont là-dedans, là, tu ouais. L'as dit, le party des femmes, où est-ce qu'elles pleurent, puis là, tout le monde... Il est fâché parce qu'il ne faut pas vivre ses émotions.
Je pense que le look des pompiers a influencé THX 1138, tu sais, de George Lucas.
C'est vrai?
Ben, si je me rappelle bien, la figure d'autorité ressemble à ça, finalement. T'sais.
Oui, ça
ils sont
peut.
Tout en noir, avec un casque, puis le bâton. Enfin, tu sais, il y a ce côté...
Oui, c'est cool de les voir partir, là, comme ils sont sur leur petit...
Sur le camion.
Oui, oui.
Ouais. Ouais, tout aligné, là, tout droit, tu sais.
Oui, oui, oui. Ouais, cette obsession de l'ordre, hein, tu sais, comme les cheveux qu'il faut qu'ils soient coupés.
Ouais.
Tout doit suivre une... Ben, tu sais, c'est ça. C'est la logique totalitaire. La logique qu'on serait mieux dans un monde où est-ce que tout le monde serait pareil.
Ouais, ouais. Attends, je vais essayer de te retrouver une photo de THX.
Ah oui, mais ça, on a parlé de la mémoire aussi. Puis un truc qui est comme... qui est fascinant, c'est que ni l'un ni l'autre peuvent se rappeler comment ils se sont rencontrés. À quel point la mémoire...
Ah oui! Ah, lui et sa femme, donc.
Oui.
Montag et sa femme, ouais.
Imagine! T'es tellement gelé, t'es tellement... T'as pas de souvenir, tu sais.
Ouais, ben il y a tellement plus aucune émotion qui est rattachée à rien que du coup, il n'y a plus aucun événement dans ta vie, finalement. C'est juste une succession d'actions sans conséquences, sans impact, sans rien.
Bradbury,
c'est d'une tristesse, c'est
ouais.
Terrifiant.
Puis Bradbury, quand il a écrit le livre, qui se passe en fait aux États-Unis dans le livre original, lui, il pensait beaucoup à la fois au macartisme qui avait lieu à l'époque, puis à la fois aux conséquences du mass-média, tu sais. cette espèce de... qui est très uniformisant. Tu sais, tout le monde va aimer les mêmes artistes, les mêmes choses. On se reconnaît tous dans... Mais bon, tu sais, je veux dire, à l'époque, il y avait une vision un petit peu catastrophique de ça, tu sais. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est très mal qu'il y ait du mass-média, là. C'est la masse qui aime, le peuple qui aime le... Tu sais, il y a un point de vue qui... Il y a un point de vue très dur sur notre société, ouais, là-dedans, tu sais.
Moi, je vois ça directement comme une réflexion sur le totalitarisme, tu sais, de la Seconde Guerre, quoi, de Hitler, de Staline, tu sais, des choses comme ça.
De la part de Truffaut, en tout cas, c'est clairement ça qui,
ouais,
qu'on ressent.
Je sais pas en quelle année a été écrit le livre, en fait, mais je pense que...
C'était en 51, si je me trompe pas.
Ah, ben voilà, ça explique des choses aussi.
52. C'était en 53, peut-être. En tout cas, dans ces eaux-là. Là.
Mm-hmm.
C'est ça, en 53. C'était en 53.
C'est quand même pas mal à la sortie de la guerre, finalement.
Oui, mais eux autres, ils étaient dans la guerre froide.
Ouais.
Puis c'était la naissance du mass-média, justement, dans les années 50. C'était la, ouais, naissance de... Tu sais, les baby-boomers, puis toute cette culture-là du... la femme à la maison, qui est dans, ouais, la maison propre. Tu sais, les trucs de propagande sur être, ouais, la bonne ménagère, c'était effrayant. Parce qu'en fait, c'est drôle parce qu'on s'imagine que la femme américaine a déjà été cette femme-là, petite ménagère à la maison et tout, mais ça a duré de 49 à peut-être 60. Là, puis ça, c'était des images parce qu'avant avant les années 50, la femme, elle travaillait puis faisait vivre ses enfants.
En 51?
53.
53, OK.
Ouais,
la télé existait déjà, là.
Oui, ben oui, la TV, ah ouais, date d'avant la guerre.
Non.
Ben la première, les premières.
Non, c'était la radio encore à cette époque-là, mais je pense que
avant
télé,
la première guerre, ça commençait dans les années 30, la TV, non?
Ah non, 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 attends. Non, non, non.
Oh là là, qu'est-ce qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui dans ce podcast? Attends, mais je dis pas que
OK, il y en a une qui date de 1926, d'accord, mais...
C'est ça, je dis pas que c'était répandu.
Première retransmission publique de télévision en direct. OK. Attends.
Médias de masse dominant, c'est les années 50 que c'est devenu...
Que c'est devenu...
Les États-Unis, nous avons investi la radio et le cinéma pour... dans les années 50. C'est dans les années 50 que ça a pris son envol.
Son essor, oui. OK. Mm. Donc, oui, ça existait possiblement déjà avant, mais ça a pris son envol à ce moment-là.
OK. En 51, premières émissions publiques en couleur. Parce qu'il y avait du noir et blanc avant, c'est ça?
Ouais. La couleur a été adoptée par le grand public plus tard, je dirais.
Oui, 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 parce que ça coûtait cher, là, ces petits trucs-là. Là. Mm.
C'est plus vieux que je pensais.
Non, mais t'as raison que c'est un média des années 50, mais oui, t'as raison que c'est un média des années 50, ouais, quoi.
Donc, je pense que la révolution que ça a impliqué, l'arrivée de la télévision, a un impact aussi sur le récit de Bradbury.
Ah oui, ça devait fasciner en 53. Ouais. Oui, ouais, il devait voir que ça se répandait partout, puis tu sais... C'est...
Ouais, puis l'impact que ça pouvait avoir sur...
Puis tu sais, il l'a mis dans la chambre de tout le monde, tu sais, elle regarde la télévision avant de se coucher et tout, puis je suis, ouais, sûre qu'en 53, ça se faisait pas, là. Tandis qu'aujourd'hui, on est comme, bah ouais...
Ben, t'as vu, il y a des télévisions partout, à peu près, dans la maison, là.
Oui, oui, c'est ça. Mais,
ce qui,
mais
aux États-Unis...
Mais ce qui est le cas, là, mais nous, maintenant, on a notre TV dans notre téléphone, là.
Oui, oui, non, je suis d'accord, mais je veux dire, aux États-Unis, depuis aussi longtemps 60, que je me rappelle, tu sais, ouais, t'as toujours eu des télés partout, t'avais la télé dans la... Il y avait la petite pocket télé dans la cuisine, tu sais, la télé machin...
La TV dans la chambre, la télé, ah ouais, dans la chambre à coucher des parents.
Les États-Unis, c'était ça, la télé partout, quoi.
Ouais,
pas,
ouais,
tant en Europe, c'était pas la même chose, mais...
Ben, cas, chaque... Je sais que chez nous, on en avait juste une. Mais j'en ai eu, à un moment donné, on en a eu deux. J'ai eu ma TV, c'est vrai. À un moment donné, on avait une TV dans le salon, puis moi, j'avais ma TV dans ma chambre. Mais oui, oui, c'était très populaire, là, la méga surabondance des écrans de télé.
Ouais.
Puis la télé avait quelque chose de très uniformisant parce que c'est facile à contrôler, contrairement à l'Internet,
ouais,
où est-ce que tu contrôles rien, les gens, ils vont où est-ce qu'ils veulent. Là. Bon, on pourrait parler de net neutralité, là. C'est une autre histoire.
C'est très à propos, hein?
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas notre spécialité, alors on va dire peut-être des niaiseries qu'on voudrait pas. Même si on est contre ou pour quelque chose. Pour la net neutralité, on est pour la net neutralité. Et contre ce qu'il essaie de faire. Ouais, donc je pense qu'on fait un petit peu le tour de...
C'est un film assez simple, hein, finalement. Une idée simple, une réalisation droite au but.
Ça marche toujours, les dystopies, là.
Ouais, moi,
ça marche toujours.
C'est un genre que j'aime beaucoup.
Il y a toujours quelque chose de... à la fois rassurant et effrayant. Effrayant parce que tu te dis, oh mon Dieu, notre monde pourrait devenir normal, mais rassurant parce qu'on se dit, ah, je suis bien quand même, là, tu sais. Il y a comme... je suis pas dans cette espèce d'horreur-là. C'est presque des films d'horreur, d'une certaine façon.
Ouais, ouais, c'est un Imaginez un futur pareil, c'est terrifiant. Hein.
Ouais. Un jour, on va se taper probablement 1984, qui est un peu dans le même...
Qui est un peu dans le même esprit, ouais,
ouais,
finalement.
Oui, proche, proche. Je trouve que ce qui est différent, par contre, avec Fahrenheit 451, c'est peut-être le côté où est-ce que les gens sont heureux.
Où on l'air heureux, ouais.
Oui, oui, non, non, mais c'est ça. C'est
puis
comme...
c'est un monde coloré.
C'est ça,
monde...
ils sont... c'est ça, exactement. Tu sais, c'est
alors
le côté
que oui, 84,
pastel.
C'est bleak, là. C'est,
oui, oui,
c'est
puis
gris,
personne,
tout est gris,
personne,
tout le monde
c'est
est. Ouais,
personne
n'est
heureux, là. C'est affreux, c'est laid, ouais. C'est. Mais bon, ça a son charme aussi, parce que les gens, justement, ils vivent dans cette espèce d'illusion-là de bonheur, là, tu sais. Tandis que dans Fahrenheit 451, tu sens une sorte de prospérité, tu sens une espèce. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Les gens, ils prennent des pilules, ils sont. Ouais. Ouais. Puis on n'est peut-être pas dans le meilleur des mondes, mais j'ai pensé aussi au meilleur des mondes.
Oui, c'est ça, j'allais faire allusion à ça, j'étais en train d'y penser. Ah, ouais. Brave New World, tu sais.
Mais dans Brave New World, il y a un côté plus... I don't know.
C'est ça, que... j'étais en train d'essayer de me rappeler. Est-ce que c'est le même genre?
Y a pas de... Non, mais là, il n'y a pas de... Oh, on va répéter, j'adore dire ça, mais dans la différence entre 1984 et Fahrenheit 451, si tu veux, qui sont dans une, la même catégorie, et ouais. Brave New World, c'est que dans 1984 et Fahrenheit 451, on interdit aux gens de lire des livres. Dans Brave New World, les gens ne sont plus intéressés à lire des livres.
C'est ça, ouais.
Les livres sont là, mais on s'en fout, tu sais. Parce qu'on préfère la TV, parce qu'on préfère... parce qu'on est bêta, on est alpha, on est oméga. Donc, parce qu'on est de tel type de personnalité, on va agir d'une certaine façon, tu sais. Et puis, on s'intéresse pas... Tu serais passé sur l'idée de classe sociale, tu sais.
Ouais. Donc, y a-t-il une adaptation film de Brave New World? J'ai pas...
Oui, il y a eu une sorte de téléfilm, genre...
OK, mais il y a jamais de... Genre, un gros film qui a été fait...
Non, puis c'est étonnant, parce que...
Faudrait que je relise ce bouquin, ça fait longtemps.
Mais c'est pas évident de l'adapter au cinéma, je pense. Parce qu'il y a quelque
ouais,
chose... Je regarde juste... On dit ça, là, puis peut-être qu'ils sont en train de... Ah oui, il y en a eu en 98, il y en a eu en 1980... Ah, il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose en 2014, mais ça a l'air d'être un court film, donc ça doit pas compter. Il y a eu un TV, c'est ça, il y a eu un téléfilm en 1998, mais c'est ça, tu sais, c'est le genre de truc qu'ils doivent faire régulièrement à la télévision. Puis il y en a un, c'est celui que j'ai vu, moi, il date de... C'est pas celui de 1980, il me semble qu'il était plus vieux que ça. Ah oui, c'est celui de 1980, je reconnais les acteurs.
L'espèce de regain de... Le fait que la science-fiction devient de plus en plus mainstream, tu sais, il y aura peut-être quelque chose à faire à ce moment-là, tu sais, peut-être une fois qu'ils auront épuisé toutes les franchises qu'ils sont en train d'épuiser jusqu'au bout maintenant, ils vont se lancer dans du matériel un peu plus.
Mais ça ferait plus une série télé, Brave
ouais,
New World.
Oui.
Ça serait plus intéressant comme genre quelqu'un, ça pourrait être quelque chose du calibre de
Westworld.
Westworld.
Ouais.
Tu sais, avec cette parce que c'est vraiment le personnage du sauvage qui rentre dans cette société-là puis qui la découvre. Puis, tu sais, puis il y a plusieurs personnages, tu sais, c'est pour ça que dans un film, c'est difficile, tu sais, de mettre tout ça ensemble, parce qu'il y a plein, tu sais, il y a beaucoup de petits trucs, mais, tu sais, qui se passent. Puis c'est un film qui est, c'est un livre qui est intéressant vraiment pour tout l'aspect philosophique, là. Donc, tu sais, t'as besoin d'un personnage, justement, comme le, dans Westworld, voyons, notre... Le fondateur, le créateur qui explique le monde, tu sais, puis qui le met en perspective, tu sais. Donc, c'est ça. Puis donc, Brave New World est beaucoup plus proche de notre société d'aujourd'hui, je trouve, au niveau de, ça,
ouais.
de son propos. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'on le fait pas aussi, tu sais.
Parce que
oui, parce qu'il y a des choses absurdes dans Brave New World, tu sais. Je veux dire, comme, par exemple, ils font l'euthanasie, puis la personne qui a écrit le livre veut un jugement négatif sur l'euthanasie qui est... Puis nous, on le fait de plus en plus, tu sais. C'est considéré comme bien. Donc, on est vraiment dans Brave New World. Tu me suis-tu, tu sais? On est comme une euthanasie, bien sûr, pour les personnes très âgées, souffrantes, etc., etc. T'sais. Tandis que dans le livre...
Brave New World a comme prédit l'avenir, finalement.
Ben, t'sais, comme, t'sais, ils sont beaucoup dans la société du loisir. Les gens s'amusent. Il
ouais.
Y a une sorte de libération sexuelle totale qui est encore là,
critiquée.
C'est
vrai. Faut vraiment que je le relise. Ça fait longtemps, là.
t'sais, c'était l'idée de pas faire d'enfants, la contraception, que tu fais... Il y a toutes des choses que l'auteur était... Pas qu'il était... Je veux pas dire qu'il est 100% contre ce qu'il a écrit, mais je veux dire... Il critiquait, quoi. Il disait, ben, c'est, par rapport au standard, quand ça a été écrit, ce futur-là, c'est... Puis c'est un futur que nous, on trouve pas mal, tu sais.
Ouais.
Donc, il n'y a pas le côté eugéniste, le petit côté qui était un des trucs fondamentaux de Brave New World. Où est-ce que toutes les existe des classes sociales selon ta naissance puis ton conditionnement, tu sais, ton conditionnement, si tu es un bêta, ben tu vas naître bêta, puis on va te conditionner à être un bêta toute ta vie, tu sais, puis tu vas entendre des phrases quand tu vas dormir, tu ne veux pas trop atteindre les sommets, tu es très heureux dans ta position, tu sais, tu es bien à servir les gens qui sont plus intelligents que toi, tu sais. Le genre de trucs, là. Puis les alphas, bien évidemment, c'est les plus smart, puis c'est les top. Puis eux autres, ils s'imaginent qu'ils sont... Donc, tu sais, c'est pas inintéressant parce que... Puis même, on a un peu de ça, peut-être, tu sais, dans nos stratifications sociales. Ou est-ce que t'as des gens qui, ben tu sais, leurs parents sont allés à l'université, puis ça va de soi. Tu vas à l'université, tu fais une carrière, etc., puis, tu sais...
Ah, j'ai vraiment envie de le relire du coup.
Non, moi j'avais beaucoup aimé.
Ouais, je pense que j'avais aimé ça.
C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois en fait.
Mais là, ça fait super longtemps là.
Ouais, moi
je vais m'en remettre dedans, ce serait bien.
Ben, si puis j'avais vu la série.
Listen to me, Montag. Once to each fan, at least once in his career, he just itches to know what these books are all about. He just aches to know, isn't that so? Well, take my word for it, Montag. There's nothing there. The books have nothing to say. Look, these are all novels. All about people that never existed. The people that read them and makes them unhappy with their own lives, makes them want to live in other ways that can never really be.
Bon, il y a autre chose à dire sur Fahrenheit?
Sûrement, 4-5-1. Je regarde mes notes, là, mais...
Fahrenheit 451, qui serait donc, en théorie, la température à laquelle le papier prendrait feu, c'est ça?
Oui, mais enfin, c'est
ça a l'air que... Ça a l'air que...
Bradbury a demandé à un pompier qui a fait des petits tests.
Ouais, puis genre c'est un peu aléatoire, un peu vraiment vrai. Il y a pas vraiment, c'est pas vraiment prouvé scientifiquement que c'est exactement cette température-là, mais je trouve ça intéressant l'idée, quoi.
Peut-être mentionner un petit moment que j'ai beaucoup aimé du livre, c'est la bibliothèque secrète,
ouais.
Où est-ce que la femme va mourir avec ses livres, là, puis on la voit un peu comme Jeanne d'Arc qui meurt.
Oui, oui, y a un lien direct où tu vois une représentation de Jeanne d'Arc.
Ouais,
tu vois le livre déjà.
C'est ça.
Et puis après une image.
On a oublié de mentionner tous ses livres. Qu'on voit dans le film.
Ouais.
Moi, ça m'a donné le goût de lire plein d'affaires. J'étais comme, ah ouais, j'ai pas lu ça, moi, Moby Dick. Faudrait que je dise Moby Dick. Ah ouais, j'ai pas lu ça. Putain. Ah ouais, c'est quoi ça, celui-là? Je le connais pas. Ah ouais, lui, je l'entends. Oui, lui, je l'ai lu.
Je pense qu'il y a quelque part une liste de tous les livres qui apparaissent dans le film.
Mais j'en ai vu
quelqu'un qui a dû se faire. Ah ouais,
dans les trivia. Non, mais j'en avais une dans les trivia, mais elle me semblait courte.
Ouais.
Ouais, je doutais que ça.
Parce qu'il y a des choses que tu vois une demi-seconde, quoi. Je pense que tu fais des arrêts sur image, puis tu commences à regarder les titres, tu trouves. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire ça sur Internet, tu t'as trouvé une liste comme ça. Quelqu'un qui a répertorié tous les livres que tu vois brûler et les titres que tu vois vraiment dans le film, tu sais. Je suis sûr que ça existe quelque part. J'ai pas cherché là, mais je suis sûr que ça existe quelque part.
Ouais, ben c'est Internet, hein. Tout est possible. Ouais. Si c'est pas fait, lâchez-vous, là. Vous allez passer à la postérité. Mais c'est probablement des livres préférés à Truffaut, là. Je pense que le premier livre qu'on voit, c'est Don Quichotte, hein.
Oui.
Ça m'a marqué.
C'est le livre que prend. Attends, est-ce que c'est le premier dont on voit le titre pour
voir? Je pense que oui. Ah, peut-être pas, mais il me semble que c'est Don Quichotte.
Parce qu'il y a la première scène sans parole, là, que tu dis, justement.
Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on voit Don Quichotte qui sort du luminaire.
Ah, oui, oui.
Oui, c'est Don Quichotte. Hein.
Oui, t'as raison.
Puis Don Quichotte, c'est tellement le roman de base, là, parce que c'est un livre très vieux qui a donné naissance à l'idée du récit puis du roman, tu sais.
Oui, il y a un truc... curieux que j'ai remarqué aussi, c'est des plans à l'envers, tu sais. Il y a quelques plans à l'envers dans le film.
Qu'est-ce que ça veut dire par plan à l'envers?
Ben, qui ont été tournés, le plan a été réutilisé à l'envers. C'est-à-dire que tu le vois, ben, notamment au début dans cette scène où il n'y a pas de parole, là, où ils arrivent chez quelqu'un, ils ramassent tous les livres, ils balancent tout par la fenêtre. Puis après, tu as cette shot où tu le vois arriver lui, où il enfile sa combinaison, on lui met ses gants, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre la manière dont ses gants s'enfilent sur ses bras, il y a un truc étrange.
Ça a été filmé en inverse, là.
Ouais, on lui dit, non, c'est-à-dire, ça a été filmé dans l'autre sens, c'est-à-dire que,
oui.
Le plan original est la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, après avoir brûlé les livres.
Oui.
Il donne son lance-flamme à son collègue, il enlève son masque, l'autre va lui enlever ses gants, etc., etc., puis il revient Et tu reviens au début de la shot, ou presque au début de la shot. Alors qu'avant, il te montre cette même shot, mais à l'envers.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est volontaire de Truffaut.
Je pense que c'est...
Ou un accident.
Soit c'est parce qu'il lui manquait quelque chose à ce moment-là, puis il s'est dit, bon, ben, je vais réutiliser ce plan-là, mais dans, tu sais, et puis ils ont fait un effet spécial et ils l'ont utilisé à l'envers. Ou alors c'était pour créer quelque chose d'un peu étrange, mais à ce stade du film, je me demande vraiment ce que ça pouvait créer d'autre. Tu sais, je l'ai remarqué, puis c'est pas le seul, il y a un ou deux autres petits plans comme ça dans le film, mais ça ressemble plus à quelque chose qui...
Stylistique?
Non, pas stylistique. Ça ressemble, à mon avis, c'est plutôt quelque chose comme, genre, ah, j'aimerais... tel plan à ce moment-là, mais je ne l'ai pas, tu sais. Alors, on va utiliser celui-là, on va l'inverser.
Oui, mais ça, de Truffaut, ça pourrait être quand même une stylistique.
Ouais, j'ai cherché pourquoi. Je n'arrivais pas à voir plus loin que ça. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est juste moi qui n'ai pas
parce
compris.
Que ça me fait penser à la scène de Cocteau, dans Orphée, où est-ce qu'il met les gants à l'envers, justement.
Ah! Okay, puis, donc,
pour rentrer
là,
dans le
chose.
Miroir, ouais. Ouais. C'est pour ça que je me dis. Puis,
ok, il y a peut-être ça alors.
Clairement, Truffaut devait connaître ce film-là. Il devait même l'adorer parce que c'était un des rares films des années 40 qui brisait toutes les conventions qui étaient. Ben, tu sais, c'est un film surréaliste.
Peut-être c'est ça. Peut-être ça finalement alors. Mm.
Peut-être, mais peut-être pas. Mais comme tu dis.
C'est... Non, mais là, du coup, oui, là, du coup, ça me.
Il faudrait que je le revoie parce que j'ai.
Ça fait sens à ce que tu le dis. C'est la référence à Cocteau. En plus, tu vois un livre de Cocteau à un moment.
Mm-hmm.
Donc, il y a peut-être un lien là, je ne sais pas.
Mm-hmm. Il y a tout un livre de Dalí en plus.
En plus, tout un livre de Dalí.
Tu vois tous les livres de Dalí. C'était intéressant. Ah, un détail amusant pour une productrice, évidemment. Je me posais la question, j'étais comme, mais avait-il tous les droits des livres qu'ils ont mis? Alors, le producteur ne voulait pas qu'ils utilisent des livres. Il ne voulait que des livres dans le domaine public.
Ouais.
Parce qu'il se disait que les gens... ben, tu sais, qui se feraient poursuivre, whatever, qui seraient fâchés qu'on brûle leurs livres.
Ouais.
Mais Truffaut, puis un autre, là, je pense, le scénariste ou je ne sais pas qui, peut-être le producteur délégué, eux autres, ils se sont dit, bon, on s'en fout, c'est un honneur là, qu'on brûle leurs livres dans ce film-là. Là, <t'sais. rire> Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a. Parce qu'il y a plein de livres de l'époque aussi, là, tu sais.
Ouais.
Donc, voilà, tu sais. Puis, non, ça c'est intéressant, les livres. Ça te donne le goût de lire.
Ouais, en plus. Non, puis juste le fait d'imaginer une société sans livres, finalement. Ben, c'est là où, en fait, où même quand tu lis peu, comme moi, je lis quasiment plus, là, maintenant. Enfin, je lis sur Internet un peu.
Ben oui, mais c'est ça que
livres,
le pire.
J'écoute des livres, mais je les lis plus. Mais.
Avoue qu'on est con un peu depuis tantôt, on parle de ce film-là. Ouais, peut-être pas tellement notre société, mais dans les faits, moi, je lis plus tant que ça non plus. Hein.
Ouais.
C'est plus. Non, mais c'est parce qu'il y avait une époque pour être quelqu'un de cultivé puis d'érudit, il fallait que tu lises. Là,
ouais, ouais.
Tu peux pas aller. Tu peux pas. T'avais un certain niveau si tu lisais, quoi. T'sais, mais aujourd'hui, t'écoutes Breaking Bad, t'écoutes des podcasts, tu me suis-tu? T'as plein de. Tu joues à tel jeu vidéo. C'est parce qu'on est tellement tiraillé entre. Je parle pas du théâtre puis du cinéma. Puis, tu sais, on est tellement tiraillé dans plein de médiums que le livre est un de ces médiums-là.
Mm-hmm,
t'sais.
Ouais.
Tandis qu'à l'époque c'est traitement du roman, la TV venait d'arriver, t'avais radio, télé, livre, tu sais. Mais là, aujourd'hui, on est comme plus dispersés dans les médias.
Aussi, mais
le théâtre, dire... cinéma, oui.
Mais ouais, disons que les écrans prenaient beaucoup moins de place.
Ouais. Puis là, ouais, c'est ça. Puis là, on parle de choses, tu sais, genre comme qui. Là, il y a d'autres choses qui nous occupent, là, genre aller draguer sur Internet, aller faire du Facebook, faire du Twitter, avoir une. Faire de l'Instagram, faire du Pinterest, quand t'es quelqu'un comme moi qui a comme 30 000 pins Pinterest. Tu sais, puis c'est des choses que, OK, je peux un peu argumenter, mon Dieu, c'est terrible, je l'ai plus, mais je veux dire, quand je vais sur Pinterest, je vois des belles images, puis moi, ça me parle, je suis quelqu'un de visuel, j'aime ça, les belles photos, puis j'ai toujours fait de la photo, puis tu sais, pour moi, c'est un gros hobby, tu me suis-tu, tu sais. Alors, quand on écoute les livres audio, moi, je défends qu'on lit, tu sais, c'est pas la même chose que lire, mais je suis désolée, moi, je prends un livre, puis je m'endors dessus. Là, j'en lis un en ce moment. C'est pas vrai, j'en lis un parce que je fais de la méditation.
Moi, j'ai beaucoup de mal à lire aussi.
Ce que je fais, c'est que je fais de la méditation en ce moment, la méditation zen, puis je lis un livre sur le bouddhisme zen. Tu comprends? T'sais? Donc, puis là, ce que je fais, c'est que je médite 10 minutes, je lis le livre 10 minutes. Donc, tu sais, c'est comme une sorte de deal que j'ai fait avec moi-même et tout, mais si je fais pas ça, c'est un mélange de. Oui, on a beaucoup de médiums, on est très sollicités. Puis là, tu vois tous ces livres-là, puis tu vois. T'as comme un gousier dans le cœur, puis tu te dis, ah, oh, mon Dieu, mais tous ces grands auteurs-là, puis Après ça, on peut quand même se poser la question, tu sais, comme la valeur qu'on accorde à toutes ces personnes-là, tu sais. Je veux dire, quand tu regardes les livres, ben, il n'y a pas beaucoup de livres qui viennent du Japon, puis il n'y a pas beaucoup de livres qui viennent d'Afrique, puis il n'y a pas beaucoup de livres qui viennent de... Donc, tu sais, c'est très occidental culture, tu sais, le Sartre et compagnie, tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, tout ce bagage-là, donc... C'est ça, moi, il y a comme... Est-ce que c'est du vieux snobisme, comme quoi il faut absolument lire et tout? Mais bon, tu sais, j'avoue que j'aime lire, quoi. J'ai lu des livres japonais aussi qui sont très bons, là. Murakami, voilà. C'est magnifique, tu sais.
D'ailleurs, il y a un japonais dans le film, t'as remarqué, à la fin?
Non.
À la toute fin, je pense que c'est la dernière shot du film, quand tu vois... c'est des gens qui passent de gauche à droite devant l'écran, okay. Puis qui récitent leurs livres.
Il y en a un qui les récite en japonais.
Il y en a un qui les récite en japonais.
Oui, okay, okay, oui, tu
d'ailleurs,
l'as
tu vois, à un moment, tu vois en très gros plan, d'ailleurs, un texte dans une langue asiatique.
Oui.
Je ne sais pas si c'est du japonais ou du chinois, mais
oui.
Qui brûle.
Ouais. Oui, effectivement. Il s'est allé un petit peu plus loin que la majorité du film à ce moment-là, effectivement.
Bah, ouais, tu as du français, de l'anglais. C'est Julie Christie qui va raconter, qui récite un livre en français.
Oui, c'est ça.
Puis... J'ai pas spoté lequel, mais...
Mais bref, c'est toujours une sorte de dilemme entre qu'est-ce qui est le vrai savoir, qu'est-ce qui est la vraie réflexion, je veux pas enlever au livre.
Ça, c'est un débat intéressant.
Oui, mais je veux pas enlever au livre son importance, parce que c'est sûr que quand tu lis un livre, moi, il y a des livres qui m'ont changé, tu sais, il y a des livres qui m'ont apporté beaucoup, là, à beaucoup de niveaux, puis je trouve que les gens qui lisent beaucoup, je trouve que c'est des gens intéressants, tout de suite. Toutes les gens que je connais qui lisent beaucoup, c'est des gens avec qui c'est intéressant d'avoir des conversations. C'est des gens qui te proposent des choses intéressantes, tu sais, que leurs horizons sont très ouverts. Puis c'est un peu le propos du film, tu sais. C'est que ça l'ouvre des horizons. Puis la télévision, ben, ça crée une sorte de communauté, ça crée une appartenance, ça crée un lien. Parce que c'est comme on parle de médias de masse, ben tu vas aller dans un contexte social, puis tout le monde, beaucoup de gens ont écouté Breaking Bad, tu sais, donc tu peux en parler.
Ouais, mais tu crois pas que le même phénomène pourrait se passer avec un livre? Je dirais à une époque c'était la même chose.
Ben, Harry Potter, c'est
par
ça.
Par exemple.
Harry Potter, c'est ça, oui,
ouais,
tout à fait.
Récemment, ouais,
c'est ça existe encore, effectivement. Ouais. Tu sais, il y a des livres qui créent
donc, finalement,
rendez-vous.
Le phénomène est, c'est un phénomène qui arrive avec beaucoup de médias, tu sais, où des gens vont pas forcément se réunir, mais se retrouver.
Mais à la différence
d'une pensée commune, okay. Ou d'un intérêt commun,
tu sais. Là, c'est moi la productrice qui parle, mais il y a un impératif commercial complètement différent avec le film puis de ta série télé. Un livre peut être quelque chose de très niche, tu sais, puis l'auteur va quand même bien gagner sa vie. En suis-tu, tu sais? Une série télé, non. Une série télé, t'as 1000 salaires là-dessus, là, tu sais, sur une série télé.
Ouais, c'est
à payer.
Ça, parce que les coûts de production dans
les
livres
coûts de
sont
production,
pas les mêmes
que 1000 salaires, là, mais tu sais, genre, mettons qu'un auteur prend un an à écrire son livre, là, il travaille à temps plein un an à écrire son livre, ben ouais. Dis-toi que pour la série télé, tu multiplies ça par 15 tout de suite au départ, tu sais, ouais. Sans compter les frais de bébelle, là, tu sais, la location de l'équipement, Puis quand je dis 15, c'est pas grand-chose, là, tu sais, c'est là, j'ai juste arrondi sur un an. Mettons que ta série, ton film, tu le tournes sur 2 mois, tu sais, mais pendant 2 mois, tu vas avoir facilement une cinquantaine de personnes. Petit budget, un film, là, petit budget, 50 personnes sur 2 mois, tu sais, puis là, t'as 2. Donc, tu sais, c'est comme... Puis c'est au niveau du salaire, où est-ce que les gens veulent avoir la même vie. Donc, tu sais, c'est pour ça que le livre a plus de liberté, a plus de souplesse, est plus audacieux dans ses explorations. Il y a des films audacieux, tout ça existe, tu sais, mais c'est... Disons que c'est plus difficile,
ouais.
Tu sais, au niveau du cinéma. Donc, puis aussi, tu sais, les gens qui font du cinéma le font de façon très commerciale souvent parce que, bon, j'avoue que depuis Harry Potter, il doit y avoir plusieurs éditeurs qui se disent « Je pouvais bien pogner un petit Harry Potter et tout. »
Oh, ils ont essayé d'ailleurs. Il y a plein de. Ben, regarde toute la littérature YA maintenant, tu sais, Young Adult, là, pour les jeunes adultes. Je pense qu'avant Harry Potter, j'avais jamais tellement entendu parler de ce terme-là, mais depuis, là, c'est comme. Il y a eu un espèce de.
Ben, c'est
de,
parce que.
Littérature pour les jeunes adultes, tu sais, ils essaient parce qu'ils ont se rendu compte.
Oui, mais
que
c'est pas juste
eux.
Ça, c'est que les jeunes adultes aujourd'hui ont lu Harry Potter puis ont envie de lire. C'est ça qu'ils se sont rendus compte.
Donc maintenant, tout est ciblé. Ben, ça, finalement, c'est un peu comme. Comme les films et comme tout le reste, tout devient ciblé, tu vas chercher ton public, c'est tout pour le fric finalement.
Mais dans les livres que tu vois que lui propose, c'est des livres qui te font réfléchir, comme, tu sais,
Shakespeare, la littérature n'était pas la même non plus à l'époque, tu sais, je veux dire, je pense pas.
Mais en même temps, on dit ça, mais Harry Potter, pour moi, je pense que c'est bon, là, je pense que c'est une bonne littérature, ça crée, mais est-ce que ça... C'est encore là, c'est la question de qu'est-ce qui est pertinent, puis ça nous ramène à un des personnages du film. Ça, c'est intéressant, c'est le personnage qui dénonce la littérature. Je suis en train de dire peut-être exactement ce qu'il va dire, c'est comme genre, la philosophie, c'est comme les modes, t'sais. Des fois, ils sont pour en tout cas, il dit, il y a deux écoles de pensée. Il donne deux exemples de pensée qui se contredisent complètement. Ouais. Puis il dit, c'est comme les modes, ça. C'est comme les jupes. Des fois, c'est court, des fois, c'est long, tu sais, d'une saison à l'autre, tu sais. Puis autrement dit, ça vaut rien parce que tu trouves pas la vérité dans un livre puisqu'il y a plusieurs vérités. Puis c'est vrai que dans la littérature, tu trouves pas nécessairement la vérité, mais tu trouves tes vérités, tu trouves des vérités, puis tu sais, moi, comme les philosophes que j'ai lus, c'est Marc Aurèle, les méditations de Marc Aurèle, qui est un stoïcien, puis moi, ça m'a fait du bien, là, ça m'a permis d'organiser ma pensée, mon travail, mon stress, tu sais, à travers ça, puis c'est de la philosophie, tu sais, que j'ai lu en livre audio, en passant, je tiens juste à le dire, là. Mais
j'aime bien qu'on le dise, j'ai lu.
Puis en même temps, toute la philosophie que j'ai découvert grâce à un super documentaire de la BBC, il y a des documentaires aussi, il y a des choses qui nous amènent plus loin dans l'audiovisuel, mais ça sera jamais aussi approfondi qu'un livre, je suis d'accord, là. Dans le livre, il y a comme une sorte de... Il y a un rythme différent. Même si c'est un livre audio, il y a un rythme différent parce que tu l'arrêtes, tu sais. Tu peux revenir en arrière pour écouter la phrase que tu n'as pas porté attention, tu sais, ce que tu fais pas nécessairement quand tu écoutes un... Ben, tu peux, là, mais sur Netflix, tu as 10 secondes que tu recules en arrière. Sur Audible, c'est 30 secondes, donc c'est mieux 30 secondes.
C'est paramétrable sur Audible, non?
Oui, en plus,
tu peux décider de combien de secondes tu reviens en arrière.
Mais oui, c'est un débat vraiment intéressant, en fait. Puis ce film-là ramène ça un peu à l'ordre du jour.
Ouais, finalement.
Parce qu'on lit moins, c'est vrai. Il y a des gens, on connaît tous des gens qui lisent beaucoup encore parce que
bon, le livre est loin d'être mort, mais ça engage un débat par rapport à ça.
Mais je sais pas si le livre va être mort. T'sais, moi, en ce moment aussi, je suis dans une période de ma vie que je suis très occupée. Parce que je suis une période de ma vie, j'ai lu beaucoup quand j'étais adolescente. Toutes les Stephen King, toutes les Dune, j'ai lu les Asimov, j'ai lu... Brave New World, j'ai lu La Vallée des Avalés, j'ai lu plein de trucs. Puis après ça, jeune adulte, parce que j'étais au cégep et tout, là, il fallait lire Boris Vian, plein d'affaires, quoi. J'ai lu, tu sais, à un moment donné, une époque de ma vie. Puis après ça, j'ai commencé à être dans une vie active, parce que j'ai fait des études en sciences. Donc, tu sais, là, pas le temps de lire de romans, hein, quand tu fais un bac en physique. Pas le temps d'aller au cinéma non plus. Puis après ça, tu rentres dans le marché du travail. Puis, tu sais, il y a beaucoup de puis là, tu sais, pour ceux qui ont des familles, des enfants aussi, c'est un autre défi, tu sais. Moi, j'en ai pas, mais je le vois. Tu sais, donc, tu sais, quand t'es dans la vie adulte, tu sais... Puis là, à un moment donné, arrive quelque chose qu'on appelle la retraite, tu sais. Puis là, ça a l'air qu'on lit plus. Parce que moi, je vois mon père, je vois ma mère, je vois mes tantes qui sont à la retraite, qui lisent beaucoup, tu sais. Mes oncles aussi, je suppose, mais je sais pas, là, ils pourront me le dire s'ils écoutent le podcast. Ils m'ont jamais proposé le livre, mais j'en ai un qui écrit un livre, hein. Je devrais pas dire ça. Là, lui, il a jamais arrêté de lire. Mon hein. oncle Stéphane, il me donnerait des coups si il m'entendait. Non, lui, c'est un érudit. Là. Il a probablement une des immenses bibliothèques. Et du coup, donc c'est ça, tu sais, je pense que les gens à la retraite vont lire plus, tu sais, il y a des étapes de la vie qui rendent ça difficile. Je pense pas que le livre va mourir parce que c'est un médium, tu sais, c'est agréable. Quand t'as le temps, là, tu sais, mettons quand je suis en vacances, tu t'assois, puis là tu commences à lire, puis le livre te parle, puis tu rentres dedans, puis t'as le goût de continuer, puis tu sais, même si c'est en papier, là, mettons que t'es pas fatigué, puis que tu t'endors pas, tu sais, ou que t'as... T'sais, parce que moi, si j'écoute des livres audio, c'est parce que je fais ma vaisselle, je fais mon ménage, je me promène, je cours.
Ouais, moi, pareil. Mais c'est vrai que ouais, c'est un médium qui te permet de prendre ton temps, d'être plus...
C'est une expérience unique en soi. T'sais.
C'est vrai.
C'est quelque chose que l'humanité, on s'est donné, c'est la littérature. Puis c'est récent, là, comme dans l'histoire de l'être humain, là, le livre. Là. C'est très récent. Là. Quand tu y penses sérieusement, là, le livre... Écoute, c'est avant le Moyen Âge, là... Des livres et ça n'existait pas. Puis c'est la presse à Gutenberg, là, tu sais.
Ouais.
Ben, tu sais, ça existait, on s'entend, là, mais c'était des parchemins, c'était quelques personnes, même chez les Grecs puis les Romains, tu sais, les gens, le commun des mortels, ils ne lisaient pas, là. Tu sais, je veux dire, ils allaient voir des gladiateurs se trucider, là. Ils n'étaient pas mieux que nous, là, tu sais. Il y avait quelques milieux où est-ce que, là, on sortait le parchemin, puis... probablement quelqu'un lisait en plus pour tout le monde. Si ça se trouve, les gens, ils savaient même pas lire, même s'ils étaient riches. Puis du coup, c'est ça s'est libéralisé avec l'imprimante. Puis c'est ça qui a tout changé. Là, si tu veux savoir l'invention qui a fait en sorte qu'on a eu la révolution scientifique, puis tout, c'est la... Cette fameuse... Puis ça, ça date de 1600. Donc, quand
c'est
tu penses...
technique d'impression. Hein?
Oui, c'est ça. Oui, pourquoi je dis l'imprimante? Je veux dire la...
La presse.
La presse imprimée. Ouais. Hein? C'est ça, la presse?
Ouais, je pense qu'on appelle ça une presse.
On appelle ça...
D'où le terme de la presse.
Ah oui,
parce
la presse.
Parce que c'est pressé dans une machine.
Pressé dans une machine. Il me semble que j'avais... Il y a un autre...
L'impression. Il y a l'impression. Un terme de pressé dedans.
Gutenberg, hein? Gutenberg.
Gutenberg, oui. Gutenberg, je ne sais pas comment Gutenberg. On le dit. Je ne sais pas d'où il était précisément, je ne m'en rappelle
okay,
plus.
OK, mais... on monte notre culture aujourd'hui, hein? On n'oublie
ouais.
pas.
C'est marrant, ouais. Dans les show notes, il y aura plus de... Dans les show notes, il y aura plus de littérature que de films, finalement.
Ah oui, c'est bon, ça. Mais donc, depuis Gutenberg, donc ça date de 1600, tu sais, quelques, là, mettons, là, du 17e siècle.
Ouais.
Ben ça, ça fait, quoi, 400 ans, tu sais?
Oui.
Hein? Un peu moins de 400 ans? Puis mettons 300 ans là, tu sais, parce que même Gutenberg, ça a pris du temps que tout le monde, tu sais, ça fait 300 ans là, depuis les Lumières en fait, tu sais, depuis le 18e siècle là, que c'est vraiment répandu, que les gens, tu sais, d'encyclopédie là, tu sais, quand ils ont fait l'encyclopédie. Puis ça a été une révolution là, tout le monde a acheté ça, l'encyclopédie là, chez les bourgeois puis les riches et tout, c'est le savoir. Mais avant il n'y avait pas ça, tu sais. Donc c'est quand même vraiment récent ce mode de communication papier. Donc il y a quelque chose de merveilleux. Puis tu dis que ça va peut-être disparaître. Moi je dis que non, tu as peut-être raison parce que c'est si court dans l'histoire de l'humanité que tu sais il y a plein de choses qui ont disparu, là, qui ont duré pas longtemps. Donc, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, on va tellement être scotché sur nos téléphones, puis la vidéo, ça va être tellement automatique, puis la photo, qu'on va vraiment pratiquement plus lire. Mais moi, je crois pas, parce que c'est un médium qui marche bien, là, qui a eu tellement de succès, qui nous a amené tellement loin.
Non, je pense que le médium écrit va rester, mais ça va peut-être... c'est juste l'objet en lui-même qui va changer.
L'objet papier.
L'objet papier va peut-être changer.
Ah oui, non, probablement. Non, mais ça, c'est sûr. À un moment donné, on va avoir des tablettes vraiment légères qui vont ressembler à des liseuses, là.
Oui, ben déjà maintenant, je veux dire, tu lis ça, tu as l'impression de lire du papier, finalement.
Oui, c'est agréable, lire sur une liseuse, là. Puis c'est bien plus pratique, parce que là, tu as toutes tes livres.
Parce que t'en fous une quantité, là, de bouquins dans un truc tout plat.
Ouais. Mais bon, c'est quoi un livre à ce moment-là? Parce que, tu sais, dans le film, ça aussi, c'est un moment beau. C'est que c'est des gens qui deviennent des livres, tu sais.
Ouais,
donc, est-ce qu'un livre, c'est le papier qui brûle, tu sais? Ou si c'est pas plutôt, justement, cette... Ce texte-là, tu sais, ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Moi, quand j'étais petite, je trouvais ça effrayant qu'elle ait brûlé son livre à la fin. J'étais comme, quoi? Il a brûlé son livre? Mais aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce que c'est l'idée que tu es le porteur, puis tu vas transmettre ce texte-là à des gens qui vont l'imprimer ou qui vont l'enregistrer peut-être, qui vont le taper sur un ordinateur peut-être. Tu sais, c'est quoi un livre? Si c'est pas plutôt c'est un récit, en fait, qu'une personne a pensé puis qui a transmis aux autres, tu sais.
En regardant la scène à la fin où t'as le vieux qui est en train de mourir et qui, tu sais, qui récite son truc au gamin, puis le gamin qui répète son texte et qui se... J'étais en train de me dire, tout le long, je me disais, ouais, mais s'il se rappelle plus d'une phrase, il va dénaturer le livre, après, le temps qu'il arrive adulte, tu sais,
Ah oui, mais ça, c'est les transmissions orales. Les...
Ouais, exactement, ouais.
C'est quand tu écoutes, quand t'es dans le conte, justement.
Il va faire des fautes, il va se rappeler de trucs faux. Ça va plus être il va dénaturer le texte original. Enfin, c'était drôle, quoi. Je pouvais pas m'empêcher de penser à ça.
Ben oui, mais ça, c'est clair parce que c'est. Mais c'est ça, c'est les traditions orales. Là, tu rentres dans les traditions orales. Mais donc, dans l'idée du film, c'est que c'est peut-être l'âge de noirceur va durer un certain temps, puis on va
le
être.
Téléphone
capable...
arabe.
Ouais.
Le message passe, mais il est déformé d'ici que tu arrives.
C'est arrivé avec les classiques des Grecs, quand ils étaient recopiés par les moines, ils changeaient
des choses. Ils changeaient
aussi.
Des choses, hein.
Puis là, tu avais des trucs mathématiques qui ne marchaient plus.
Ouais.
Anyway. Donc, pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi? Parce qu'il l'a changé. T'sais. Il l'a
comment
copié, c'est trop pire.
Ça, mes ancêtres.
Mais c'est ça. Mais, ouais, donc c'est ça. C'est comme, qu'est-ce qu'un livre, tu sais? Voilà, ça nous amène à ça. Ça nous ramène à la fin. Ah, d'ailleurs, petite anecdote, la neige n'était pas prévue pantoute, mais ça marche super bien parce que la dernière phrase, c'est qu'il meurt à la première neige,
ouais,
tu sais?
Oui.
Puis, c'est un hasard.
Ah ouais, ils ont souffert une météo terrible à la fin du tournage, je sais pas quoi.
Mais ça marche pas bien avec la fin du film. Non, finalement, c'est un bon film, même s'il est coté juste 7.3 sur IMDb. Ça,
ah oui, bah oui, oui, oui. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir, là, vraiment.
On est trop fin avec les films, on les aime tous, tu trouves pas? Peut-être qu'on
ouais,
devrait...
peut-être. Non, mais je veux dire,
c'est parce qu'on choisit des films.
Je pense que j'avais peur de ne pas l'aimer, en fait.
Ah oui?
J'avais peur de trouver ça un peu poche ou un peu lent, un peu. Tu sais, parce que parfois, il y a des vieux films, tu sais, où il y a des films que tu as vus il y a très 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 longtemps, puis qui t'ont beaucoup plu à l'époque. Puis quand tu les revois, t'es comme, ouais, ça va, tu sais. Puis j'avais peur de pas l'aimer. Et en fait, dès le départ, j'étais tout de suite, je suis tout de suite rentré dedans, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Et ça m'a beaucoup plu. Ça, je trouve que ça se laisse très bien regarder, quoi, encore aujourd'hui.
80% sur Rotten Tomatoes.
Ah ouais, 80%, c'est bien.
Quand même. Mais c'est... ouais. Alors, puis ça nous a amené une belle réflexion sur la littérature, le livre et machin.
Ouais.
Et notre société d'aujourd'hui.
Ouais.
Ce qu'on veut d'une bonne science-fiction.
Ouais. Donc, juste à faire abstraction du jeu robotique de...
Werner.
De Werner, machin, hein, d'Oscar Oscar Werner. Werner. Mais sinon, vraiment, vraiment bien, quoi. Je recommande chaudement. Tout Truffaut, d'ailleurs. Tout Truffaut, en général, c'est bien.
Oui. Truffaut, c'est très bien.
J'ai rien à jeter là-dedans, je crois.
Non, moi, j'ai jamais fait de film de Truffaut que j'ai pas aimé. Sérieux, non, là, j'aime tous ces films.
Ouais.
Puis, ouais, ils sont tous
donc
quelque
c'est
chose.
Ça, ouais. En plus, ouais, le seul film anglophone, seul film de science-fiction, c'est cool.
Ouais, un grand maître du cinéma.
Ouais.
Puis c'est le fun de découvrir des grands maîtres du cinéma qui font de la science-fiction.
Ouais, dans une langue qui n'est pas la leur.
Ouais, d'ailleurs, on en a une couple d'autres qui s'en viennent. Donc là, on va retourner à notre film
ouais, donc
argentin.
Là, donc c'est ça. La prochaine fois, on va retourner à notre film argentin initialement prévu aujourd'hui. Ça sera, je ne sais pas encore quand ça sera, parce qu'on est encore pas mal occupé. Moi, ça se calme un peu doucement. Je sais qu'à chaque fois, je dis ça, puis à chaque fois, ça repart de plus belle.
Oui, ben, c'est ça. On espérait faire le prochain avant Noël, l'enregistrer avant Noël.
Ouais.
On va voir. Ouais, parce
ça,
que
ça devrait normalement se faire avant Noël, puis, ouais. Puis c'est ça. Puis après, donc on a encore quoi, deux, trois films.
Oui, oui, on en a.
Avant.
On avait le film indien, on avait le film chinois, puis on avait.
That's it, je crois.
Ouais,
c'est juste ces deux-là qui restent.
Il en reste trois. Ben peut-être qu'on pourrait prendre un vrai film français de science-fiction, par contre.
Ouais, on pourrait.
On pourrait se taper le truc, le Bunker Palace Hotel. Ou le film de Godard, mais
ouais,
lui, Alphaville. Il est pénible. Ouais, il est pénible, Alphaville.
Ah, moi, j'ai du mal avec Godard.
Ouais, moi aussi, j'ai du mal. Mais là, tu vois, on pourrait en parler.
Ouais.
On pourrait, pour une fois, on pourrait...
Je l'ai rencontré, en plus, il y a longtemps.
Ouais, ouais, je suis sûr que c'est un chouette type, hein, mais c'est juste...
Là, j'aime bien l'entendre parler du cinéma, parce qu'il a toujours des one-liners assez fameux.
Ouais.
Mais bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et, mais
non,
avec,
mais
ses films, avec ses films, à part ses 3-4 premiers...
Ouais, c'est ça.
Après... Pour moi, personnellement, c'est du bullshit.
Non, mais moi, j'ai aimé de ces films-là. Moi, j'ai aimé À bout de souffle.
Ah, les 3-4 premiers, là,
j'ai
sont excellents. Mais après,
le mépris,
c'est...
j'ai aimé ça beaucoup. J'ai aimé Le mépris.
Ouais.
Mais ouais, effectivement, après ça, j'en ai vu.
Pierrot le fou, c'est bien.
Pierrot le fou, c'est bon. Ma vie, l'histoire de la prostituée, là, ma vie, ça, c'était bien, avec Anna Karina. Mais après ça, moi, l'école de cinéma,
je
ne
crois pas qu'on est en train de parler de Godard. Enfin, non, si, c'est logique, parce que
Vague
et tout, mais...
Non, mais c'est un ami de... Mais... Il était sur le site de Fahrenheit 451, à un moment donné, il y a des photos.
Ouais.
Dans IMDb.
Bah oui, ils étaient potes, lui et Truffaut.
Mmh. Ouais.
Faisant partie du même mouvement.
Donc, il y a des gens qui sont des inconditionnels de Godard, donc on va leur laisser.
Eh bien, ça n'est pas mon cas, voilà. Ben sur ce, on va conclure, puisque je pense qu'on a fait le tour du film.
Tout à fait.
Donc, grand merci d'avoir patienté tout ce temps dans l'attente d'un épisode, à moins que vous soyez tous... qu'il n'y ait plus personne.
Il n'y a plus personne.
Revenez. On va essayer de reprendre un rythme plus fréquent. Ça nous ferait plaisir à tous. Moi aussi, ça me ferait très plaisir. Pendant tout ce temps, j'étais là, il faut qu'on enregistre, j'étais désespéré. Mais voilà, enfin, on a pu, donc c'est cool. Si on veut te retrouver en attendant un prochain épisode, on peut te trouver sur Twitter ou
Facebook,
ou juste Facebook, Marie-Louise.Gariepi.
Ouais, c'est ça. C'est plus sûr.
Et moi, c'est sur Twitter, Steadinik, Steadinik. Et pour vous abonner à ce podcast, c'est sur notre site 24quarks.com, 24quarks.com, ou sur iTunes. Et en passant, si vous pouviez nous y laisser quelques belles petites étoiles au passage, ça serait très très apprécié, ça nous encourage. Et vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, sur Pod Québec, sur RZO Web. Et suivez-nous sur @24Quark sur Twitter. Et puis, bien sûr, bah, venez jaser avec nous sur notre page Facebook. Ou envoyez-nous, comme l'a fait notre ami David tantôt, envoyez-nous des courriels à 24quarks@gmail.com. Peut-être serez-vous lu pendant un épisode, vous aussi.
Puis on va peut-être suivre la suggestion de notre ami.
Oui, on va, absolument, oui, on va suivre sa suggestion de voir Icarie XB1.
Oui, on est encore parti dans les films de non...
Donc la prochaine fois, on se retrouve avec Hombre Mirando al Sudeste, enfin. Et puis, en attendant, on vous souhaite... un bon début d'hiver. Et puis merci de votre fidélité.
Merci.
Et à la prochaine. Bye. Program complete. Get away from her, you bitch. Shall we play a game? 24 secondes.